Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Dès que la fenêtre s'ouvrira sur le contenu de la disquette, vous remarquerez qu'elle n'occupe qu'une partie du bureau et laisse de la place pour d'autres objets. Qu'est-ce qu'on fait là? On ouvre?
Bienvenue sur Discate, l'émission quadrimestrielle, turbo-mensuelle, triple hebdomadaire, qui a fait un petit break hein, quand même pendant les vacances scolaires, parce que c'est bien connu, on est tous salariés de l'éducation nationale, mais qui revient avec une équipe de choc et de charme et de chic également. Je commence par la diagonale tropicale avec toi, Oni, comment vas-tu?
Ça va bien, et toi?
Eh bien, écoute, ça va très très bien. Les cheveux poussent, la vie passe.
Ouais, bah alors, les cheveux poussent ici aussi, je te rassure.
Et voilà, et la vie passe et pareil, hein, non? On est bien.
La vie passe pareil, exactement.
Ouais.
J'ai fait pas mal de choses pendant cette absence forcée, hein, en ce qui me concerne. Moi, je voulais parler. Il y avait des trucs à dire et tout. Je disais, vivement qu'on en parle dans Disquette. Et puis bon, il n'y avait pas Disquette. Alors, je pleurais tous les mardis soirs dans mon coin, évidemment, dans le noir. Mais voilà, je suis super content de vous retrouver.
Ah, ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Je vois dans le chat qu'il y a des gens qui se basent sur Disquette pour savoir s'ils ne sont pas encore trop tard au taf. Nous attendez pas, les gars, hein, parce que sinon vous risquez de dormir au bureau.
Ah oui, si t'es encore au bureau et que Disquette commence, tu sais que t'es en heure supplémentaire, c'est
ouais,
ça?
Ouais, t'es en heure sup, mais enfin voilà, vu que ça commence une fois tous les 8 ans, ça serait dommage de rester au bureau jusqu'à ce que Disquette démarre. Verticalement à toi, nous retrouvons Pentaro qui a décidé d'exploser les yeux d'à peu près tout le monde. Et encore, il a pas mis son fond habituel. Mais par contre, la petite veste rouge vif, phosphorescente de chez Millet, là, très fort, Pentaro. Comment vas-tu?
Ah bah, c'est le côté sécurité, il faut être vu en montagne, que veux-tu? Donc,
tu prépares l'Everest comme un youtubeur connu?
Exactement, ouais. Putain, ouais. Quel débile, quoi. Putain,
mais non, moi je voulais justement qu'on soit la caution bienveillance, bordel.
Ah, on veut créer des ponts, nous, on veut pas.
Quand j'ai lu ça, si tu veux, je me suis dit, mais pourquoi il commencerait déjà par le Mont Blanc?
Mais non, mais il va le faire. Mais encore une fois, vous avez tout compris de travers.
Attends,
l'objectif.
Dit, hein.
Non, oui, non, mais je vous vois Pentaro. L'objectif, c'est évidemment l'Everest, mais il y a de la prépa avant. Il va faire le Mont Blanc. Il va même faire, je crois, le Mont Valérien.
du côté. Dur, hein, le Mont Valérien.
Ouais, très dur. Très dur, hein, du côté de, je sais même pas où c'est, à Nanterre ou.
La Suresnes.
À Suresnes, voilà.
Il y a le Kilimanjaro aussi, hein, s'il veut du challenge. Tu vois.
Mais de toute façon, je crois pas qu'il y ait un seul accompagnateur qui t'emmènerait faire l'Everest sans préparation, si t'as pas un passif en tant que...
Ouais, ou alors ton accompagnateur, il est pilote d'hélicoptère, tu vois, éventuellement.
Oui, voilà, il veut mourir aussi dans ce cas.
Parce qu'à 8000 mètres, l'hélicoptère,
oui,
il n'y
a plus de portance.
Pour aller, quoi. Bah oui, ouais. Donc il peut même pas y aller.
Alors,
en fait.
Ceci étant, j'ai vu un nouveau sport qui a émergé. Ça s'appelle le deltaplane traction. Donc le traction plane, c'est tu fais du delta plane, mais tu t'attaches pas. Du coup, t'es suspendu. T'as pas vu ça?
Ah oui, j'ai vu la vidéo. C'est où?
Il y a un mec, en fait, il fait un delta plane, genre un baptême de l'air en delta plane, et l'instructeur, il a juste oublié de l'attacher. Du coup, dès qu'il décolle, il se retrouve pendu par les bras au-dessus de la forêt. Voilà, ça avait l'air d'être l'Autriche ou la Suisse.
Des sensations fortes.
Ah ben là les miquettes, hein. Et puis en plus le deltaplane il prend bien son temps, tu vois, il dit ouais non mais on va atterrir, mais attends, t'as payé pour 30 minutes, je vais te faire tes 30
bien,
minutes.
Moi, là, en haut.
Je sais pas si vous l'avez vu hein, dans le chat, je l'avais relayé. Voilà, c'est encore un truc qui m'encourage à penser que définitivement l'homme n'est pas fait pour voler, donc on devrait arrêter. Au programme de ce Discate, donc, qui se retrouve orphelanisé à la fois par caféine, vous avez la formule chimique de la caféine juste en dessous, et Yamato, vous avez... est-ce que vous avez Yamato quelque part? Attendez, je cherche.
On peut mettre une photo, une vignette dans un coin.
Non, mais on en a une d'habitude. Ah, voilà.
Ouais.
Yamato, le célèbre Battleship. Voilà, donc les deux ne sont malheureusement pas dispo pour participer à cet épisode de Disquette, mais on pense à eux et on les embrasse très très fort. Et pour commencer de main de maître, nous allons passer aux news. Et évidemment, on est en autoréal. J'ai pas de jingle news, moi. Que je vérifie.
Non, tu veux que je fasse un truc à la bouche?
Ouais, vas-y, let's go. Attends.
Allez, dis-moi.
Vas-y, c'est parti.
Les news. Voilà, c'est bon.
Merci beaucoup, Oni. Alors, les news cette semaine. J'ai vu qu'il y a des gens qui se foutaient de notre gueule parce que c'est vrai que, initialement, dans Discate, on a une rubrique test. Et initialement, dans Discate, on défonce systématiquement les timings et on passe jamais les tests. Alors, Pentaro, ouais, il dit « Eh, moi, j'en ai marre, vous savez quoi, mes tests, je vais les faire en news, comme ça, je suis sûr qu'ils passeront. »
Il est pas con.
Eh oui, il est pas con. Il est pas con. Alors, Pentaro, tu vas nous parler. Alors, attends, je reprends le conduit, là, je sais plus. T'as quoi?
On va commencer par l'écran ou par...
Ah oui, l'écran, tiens, c'est intéressant. Est-ce qu'il y aurait, par hasard, des vidéos de ce truc-là? Parce qu'évidemment, toi, tu mets zéro source, zéro truc, zéro rien. Attends.
Ok, mais il y a un site chez le constructeur.
Bah oui.
Ouais, évidemment. Ah, c'est le... Ah oui, d'accord. Ok. Alors, attention, c'est parti. À toi, Penta.
Ouais, du coup, je vais expliquer un peu la genèse de ce test, parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on m'envoie un écran à 2400 balles à tester, sachant que comme je fais plus d'émissions, ben, voilà, hein, c'est la règle de la jungle. Quand tu ne fais plus d'émissions, plus personne ne t'envoie plus rien, tout le monde oublie ton prénom, et voilà, et c'est la dèche, et c'est la vie, hein, c'est comme ça. Du coup, en fait...
Ah oui, 2400 balles, pardon, j'ai cru que c'était le numéro de série, excusez-moi, parce que... il y a quand même beaucoup de chiffres, pardon.
Non, 2400 euros, en fait, on a... dans mon boulot, donc à la mairie de Drancy, on va faire un nouveau CSU, donc un centre de supervision urbain.
Ouais.
C'est là où les gens en fait regardent. On a plus de 200 caméras à l'extérieur à Drancy, et donc c'est là où on a un mur d'image. Vous voyez qu'on voit souvent dans les reportages de TF1, etc., avec les murs d'image, les policiers, tout ça. Donc en fait, on va le déménager, et donc on a réfléchi à comment optimiser en fait l'ergonomie de travail des gens qui passent littéralement toute leur journée devant des écrans à regarder des vidéos.
Des gens, on rappelle, des policiers municipaux.
Oui, des policiers.
Ouais, ça va, tranquille, hein, il faut... Ça va. Ouais, je veux dire, on va pas les plaindre, non plus.
Et du coup, en fait, donc, eux, ils ont maintenant, en fait, depuis quelques années, tu sais, je les équipe en gamer. C'est-à-dire qu'ils ont des gros PC gamer.
Je me rappelle de ça.
Je te rappelle, voilà, donc ouais. Mais je fais un petit résumé, tu vois. Donc, parce qu'en fait, à la base, comme ça tourne en 24/7, que ça décode du flux MP4 constamment, si tu veux, le cahier des charges, c'était avoir un PC... qui peut décoder 4 à 8 flux H.264, MPEG-4 sans broncher, tu vois, et qui tourne 24/7. Donc, si tu prends les Dell Optiplex de la mort, là, tu es sûr qu'au bout d'un an et demi, ton truc, il est mort. Du coup, je me suis dit, il vaut mieux que j'achète des PC gamers qui vont tourner à 20%, mais comme c'est en 24/7, ils vont être tranquilles, mais ils vont durer, plutôt que d'acheter des PC de bureautique plus qui vont coûter quasiment aussi cher et qui vont crever tous les ans et demi. Du coup, je les ai équipés avec de l'Alienware. Donc, les mecs ont surkiffé, tu vois, d'Alienware.
Bah, devine. Ouais.
Après, je les ai équipés avec clavier souris Corsair aussi RGB. Les mecs ont surkiffé. Je les ai même fait tester les lunettes Gunnar et tout, parce que c'est des sportifs, hein, ces gens-là. Donc, tu sais, il faut le côté un peu. Tu vois, voilà. Mais enfin, voilà, je les adore, on s'éclate, quoi. Et du coup,
il y a une équipe e-sport de la police municipale à Drancy ou pas? Parce que tu pourrais, là.
Non, maintenant. Bah, l'e-sport, tu sais, c'est Smash, hein. Moi, j'ai Vince dans mon
oui,
service.
Oui, c'est vrai, en plus. Oui,
donc, j'ai juste un des meilleurs Link d'Europe dans mon service. Donc, si tu veux, niveau e-sport, on est calé. Et donc, je leur ai dit, et donc, ils me disent, ouais, voilà, on voudrait avoir un peu plus de surface d'affichage pour pouvoir, en fait, stacker les vidéos et tout, et voir, en fait, ce qu'on peut trouver. Donc au départ, il me parle, ouais, on a vu des 34 pouces. J'ai fait, non, les mecs, arrêtez tout de suite avec vos 34 pouces, ça ne va pas le faire du tout. En plus, c'est du format 16:9, donc en gros, c'est pas cool, quoi. Nous, il faut pouvoir stacker littéralement des images en 16:9, tu vois, enfin 4 vidéos, ouais. Limite. Donc je leur ai dit, c'est simple, c'est soit on teste un 45 pouces en 21:9, soit on teste le 49 pouces en 32:9. Et du coup, j'ai demandé à pouvoir tester les deux. Parce que notre prestataire qui s'occupe de tout ça, tu penses que le mec, il se fait des millions par an sur les villes qu'il a, donc il n'est pas à me prêter un écran à 2500 balles près. Du coup, on a testé les deux, et ça m'a permis de tester le Corsair Flex. donc qui permet de, tu sais, de pouvoir flexer ou déflexer la courbure du
j'adore le nom de cet écran, je suis désolé.
Oui, parce qu'il s'appelle c'est quoi, c'est
le Xeneon Flex.
Xeneon Flex.
Flex, voilà, à 2400 balles. Et donc, et j'aurais fait tester aussi l'écran Odyssey, c'est le G9, c'est ça, le 49 pouces 32e.
C'est des OLED tous les deux, non?
Non, je crois que c'est du QLED. Je crois que c'est le QLED. Hein, c'est en QLED, hein, le 49 pouces
c'est peut-être,
G9. Alors, c'est, ouais. Je n'ai pas demandé le tout dernier de nos modèles, parce que si tu veux, si c'est un OLED, ça va me coûter une couille et demie. Voilà, donc, et du coup, c'est vraiment, comment ça s'appelle, c'est vraiment le 32e qui a pris leur cœur. Parce que du coup, ils peuvent vraiment te foutre tout en 16/9 et tout, ils kiffent. Enfin, c'est juste.
Donc, le 32e, c'est le 49 pouces.
C'est ça, de chez Samsung. Et moi, du coup, bah, j'ai pu tester le 45 pouces tranquillou. Sachant que j'aime pas du tout, moi, les écrans courbés. C'est ça qui me fait chier, c'est que quand, comme moi, que t'aimes bien les surfaces planes, ouais. Et que tu veux, malgré tout, l'écran 21/9 en un peu en grande dimension pour pouvoir coder et tout, bah, en fait, tout est courbé. Et l'avantage, tu vois, de celui-là, c'est qu'au moins, bah, si tu veux pas un truc courbé, et bah, tu le courbes pas. C'est con comme ça, tu vois, mais c'est, pour moi, c'est un vrai luxe.
Un avantage à 2400 balles, quand même, mais ok.
C'est ce que j'allais dire. Mais oui.
C'est-à-dire que t'achètes un écran qui se plie pour pouvoir ne pas le plier, c'est quand même intéressant.
Bah ouais, mais d'un autre côté, enfin voilà quoi. Donc après, niveau spec, il fait HDR10, c'est de l'OLED, voilà. Donc,
ça, c'est bien, du coup, l'OLED 45 pouces.
Ouais, 240 Hz.
En plus,
en 21/9, donc 3440 par 1440. Voilà quoi. Donc, ah oui, et si, surtout, il a deux HDMI 2.1. Ça, c'est cool. Donc, ceux qui veulent brancher leur console next-gen qui ne supporte pas du tout le 21/9, donc ça ne sert à rien, mais ce n'est pas grave. Le DisplayPort en USB-C. Et donc, du coup, moi, avec le Mac Mini, ce qui est parfait, c'est que je branche juste l'USB-C dessus. Tu vois, et je récupère tous les ports qu'il y a dessus, parce que là, au niveau port dessus, c'est incroyable. T'as en façade, t'as deux USB, alors putain, je me rappelle plus du nom, c'est le A couleur bleue, là, enfin, tu sais, c'est le truc à 5 gigas.
Du 3.0
c'est... Ouais, oui. C'est 3.1.
Je dis 3.1.
Il y a peut-être les...
Ouais, mais ouais. 3.1, 3.2, Gen 2, je sais pas, c'est 3.1,
ouais, Gen 2.
Maintenant, on les appelle tous 3.0, t'as fait pas
voilà,
chier.
Enfin, ouais. Voilà. Donc, il y en a deux devant, il y a une prise casque devant, t'as derrière, t'as l'USB-C, t'as encore deux ports à USB 3.0 là, plus l'HDMI 2.1, plus l'USB-C. Donc en gros, typiquement, ça me sert de hub pour le Mac Mini. C'est-à-dire qu'avec un câble USB-C entre l'écran et le Mac, eh ben, j'ai pas de câble HDMI à la con et j'ai tous mes ports. Et j'ai... Enfin, c'est pour le
coup, alors attends, pardon, tu as deux HDMI 2.1, petit bras.
Oui, et un USB-C.
Et un USB-C, mais c'est tout, il parle pas des 18 ports.
J'ai pas dit 18 ports.
T'avais pas dit il y avait deux ports en façade plus.
Si. Bah, voilà. Si.
Bah, ils en parlent pas là.
Ah bah, je l'ai sous les yeux l'écran, donc je peux te le dire. Hein. Je te confirme que j'ai bien deux USB 3.0 devant moi.
Ah bah oui, si, si, oui, oui.
Sur les entrées vidéo. Ouais.
Ah tu oui, sur les inputs, d'accord. Ok, oui, non, pardon. Oui, ok, il y a deux ports USB.
Voilà.
C'est un peu disgracieux.
Ça, c'est bien. Ils ont foutu la prise casque, c'est con, hein, mais ils ont foutu la prise casque en dessous, en façade.
Ouais.
J'ai jamais vu un écran qui avait une prise casque ailleurs qu'à côté des HDMI, là où il est complètement inaccessible.
Exactement. Ouais. Ah non, mais enfin voilà, donc, donc il coûte.
Ah bah pour 2500 balles, les mecs. Oui,
ouais, mais et j'en connais qui.
On fait 2-3 efforts. Hein.
J'en connais et je ne citerai pas les marques pour éviter l'annulation de sponsoring potentiel, qui coûtent aussi cher et qui font de la merde.
Mmh.
Mais je confirme, ouais. Donc voilà, et certains des fois avec une tête d'alien dessus, mais bon, ça après. C'est...
Arrête Oh non, mais il est incorrigible.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, pour le coup, tu sens que les mecs ont réfléchi. Alors oui, ça coûte très cher pour ce que c'est.
Ah bah, c'est le prix de la réflexion, ouais, bien sûr.
D'un autre côté, voilà. Donc moi, tout ce que je voudrais, c'est qu'il fasse en fait le même, qu'il ne se flexe pas et qu'il le fasse 1000 balles moins cher.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas
Corsair, si vous m'entendez, voilà.
Ça n'existe pas même, déjà
Pas flex et 1000 balles moins cher.
Ça n'existe pas déjà des moniteurs Corsair.
Le problème, c'est que, ouais, comme il disait tout à l'heure, l'écrasante majorité des écrans très larges en 21 voire 32/9, ils sont quasiment tous incurvés parce que les gens préfèrent avoir un écran qui soit pas plat. Parce que c'est vrai que quand tu es en face d'un écran 21/9,
ouais,
si tu regardes sur les bords, c'est bien qu'il soit un peu recourbé vers toi pour que tu vois un peu plus ce qui se passe sur les bords de l'écran. Donc ils sont quasiment tous incurvés maintenant.
Bah après, ouais, donc la gamme de Corsair, quand même, ça reste. C'est soit du 32 pouces, soit du 45. Hein, y a pas de...
Ah, y a pas d'entre.
Ouais.
Du coup, la question, c'est pas léger en résolution du 3440 par 1440 en 45 pouces. Et ben, quand t'es vieux comme moi et que tu portes des lunettes, et ben, c'est juste
c'est gros
parfait.
Et c'est bien.
Exactement, ouais. C'est gros et c'est parfait. Voilà, donc et après tu peux bien sûr jouer avec ta résolution hein, étant tout petit, hein. Enfin tu vois, moi je suis sur Mac donc je me pose pas la question, mais sur Windows au pire tu sais, tu peux mettre en je sais plus combien en 200% ou en 50%
oui,
et du coup
oui,
tu
oui.
vois le truc en tout petit et voilà.
Mais alors attends, parce que moi j'ai quand même une question, le flexing là c'est comme sur la vidéo là, tu as deux poignées qui dépassent et tu tires
C'est ça, et pour le déflexer il faut tirer à fond pour le redéflexer.
Je croyais que c'était motorisé moi, non? Ok.
Ah non, faut y aller.
C'est-à-dire que tu fais encore de la manutention à 2400 balles quand même.
Ouais, mais vaut mieux ça plutôt que d'avoir un moteur qui est mal asservi et qui grille un côté parce qu'il fait pas les choses parfaitement.
Oui,
temps,
oui, c'est
tu sais, comme la télé LG là, tu sais, qui était censée sortir, tu sais, se dérouler du meuble. Rappelle-toi
ouais.
ça.
Ouais, ouais.
Et en fait, ils ont quasiment jamais sorti parce que si t'as genre un millimètre d'écart d'asservissement entre les deux moteurs, bah en fait, ça te flingue ta télé et c'est mort, quoi.
Ouais.
Donc voilà. Puis de toute façon, moi, enfin là, je le flexerai jamais, donc je m'en fous. Donc voilà, donc c'était un bien bel objet, ça coûte cher, et on va quand même acheter du Samsung pour la police municipale.
Et du coup, voilà, donc du coup, ça aura au moins servi à ça. Mais du coup, ton verdict, alors, c'est tu conseilles l'achat?
Ah, complètement.
Enfin, tu conseilles l'hypothèque? Parce que là, on est quand même sur des niveaux de prix.
Pour moi, il est ultra validé, quoi. Tout ce que j'attends, tu vois, c'est qu'il y ait genre un pixel mort et que je puisse dire au fournisseur, c'est con, il y a un pixel mort, tu vas pas pouvoir le récupérer et le filer à un autre
tuyau. Mais ce qui est,
c'est qu'il y a une garantie 3 ans pixel mort de Corsair. Si
ah oui. Par contre, moi, je pensais pas. Il me semblait que les Citadel étaient OLED. Du coup, en termes de réactivité, tu pouvais pas avoir des trucs à 4500 Hz, tout ça là, ça y est, c'est dépassé ce...
Si, il y en a maintenant, il y en a des écrans 240 Hz en OLED, ça existe, hein. Il y a LG on a sorti deux là.
Ok, ouais. Il me semblait qu'on était limité.
Ils coûtent super cher, hein, mais ils en ont sorti deux là.
Du coup, il est FreeSync Premium Nvidia G-Sync compatible, voilà. Donc ouais. quand je lance mon petit GeForce Now sur mon Mac M2, et ben c'est que du bonheur.
Eh ben, bravo, je franchement.
La transition.
Ouais. Du coup, attends, une transition pourquoi? Pour parler de Nvidia, c'est ça que tu veux dire?
Non, c'était le deuxième test, c'était le Mac Mini M2 Pro.
Ah oui, non, mais attends, parce qu'on va pas faire que les tests tout de suite. D'abord, on va glisser une petite news. Et d'ailleurs, on va commencer les vraies news avec notre point habituel sur la récession, bien sûr. Voilà, alors on en est où? Parce que la dernière fois qu'on avait parlé de licenciement, on s'est arrêté sur le mois de janvier qui avait été quand même costaud avec Amazon, Google, Microsoft, etc. Là, on a sur le mois de février Dell et Ericsson. Alors Ericsson n'était pas mort, le saviez-vous? Moi j'ignorais.
Bah évidemment. Mais Ericsson, ils sont ultra forts sur les équipements réseau, dont 5G.
Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils font plus de consumer market, ils font que des...
Tous les télécommeurs européens achètent de l'Ericsson parce qu'ils n'achètent pas du Huawei pour faire la 5G. Donc je veux dire, les mecs sont tranquilles chez Ericsson.
Oui, en fait, la chance d'Ericsson, c'est que Huawei, ce soit des espions pour la Chine et du coup, ouais, personne ne leur fait confiance.
Oui, alors la chance quand même, excusez-moi, ils ont viré 8500 personnes. Donc
ouais,
apparemment
temps,
ils ont
tout le monde vire, c'est à la mode. Je crois que si tu vires pas en ce moment, on te regarde bizarre. Donc
fait, ce qui se passe, c'est comme personne fait le 5G, et ben en fait, ben voilà quoi, tu vois. Ericsson avec sa 5G, à un moment donné, je pense qu'il se dit merde.
Ah bah ok, donc Ericsson n'était pas mort, mais du coup il passe pas loin parce que 8500 personnes quand même. Et puis je me réjouissais en fait moi du mois de mars qui avait l'air quand même de démarrer doucement au chapitre des licenciements avec un petit 8150, ce qui était un peu une paille hein, en vrai par rapport aux 108 000 par rapport aux 108 000 de janvier mais entre temps on a le sujet dont on parlera tout à l'heure hein, la faillite bancaire là de la Silicon Valley Bank qui du coup risque d'impacter un petit peu ce graphique on en parlera tout à l'heure.
T'as Facebook qui a annoncé qu'il virait 10 000 personnes.
Exactement,
plus, hein.
Et c'est d'ailleurs...
C'est pas tout de suite.
C'est une news de toi, Oni, Alors, vas-y Oni, merci, merci Penta pour l'introduction, mais quel talent c'est.
Yes, yes, aucun problème. Et donc, du coup, oui, effectivement, Meta, puisque maintenant c'est comme ça qu'il s'appelle, hein, c'est très important pour Marc. Meta a annoncé, alors avant d'annoncer les licenciements, justement, plus tôt dans la semaine passée, là, ils ont annoncé qu'ils allaient arrêter les NFT. Alors, c'est très important parce que les NFT, voilà, enfin une bonne décision.
Incroyable.
Chez Meta. Ils ont annoncé qu'ils allaient arrêter les NFT. En fait, vous le saviez peut-être pas, sauf si vous êtes des crypto bros confirmés, mais ça faisait déjà un petit moment que les services de Meta, et notamment Facebook et Instagram, permettaient de... Alors, pas forcément de minter des NFT, ça c'était surtout en test visiblement chez eux. Je ne sais pas si beaucoup de gens ont pu le faire via Instagram, par exemple, mais en tout cas, on pouvait, comme c'est par exemple possible sur Twitter, lier oui. son compte à un ou plusieurs
NFT.
On peut toujours, mais ces fonctions-là sont appelées à disparaître puisque Meta annonce qu'ils vont se recentrer un petit peu sur des stratégies un peu plus lucratives, on va dire, des trucs qui rapportent réellement de l'argent et pas juste de la monnaie de singe. Et du coup, ils annoncent que voilà, ils vont changer un petit peu leurs priorités. Ça s'inscrit un petit peu dans les changements de stratégie qu'il y a depuis le début de l'année chez Meta. On en avait déjà parlé ici, il me semble, après un appel aux actionnaires où Mark Zuckerberg s'était fait un petit peu secouer les branches. par les 10 actionnaires qui lui expliquaient que écoute, ton métaverse il est bien sympa mais ça nous coûte des milliards de dollars et ça rapporte zéro et nous on est des actionnaires, on est là pour gagner de la thune, donc tu vas nous faire le plaisir d'en gagner s'il te plaît. Donc il a un petit peu réduit les activités sur le métaverse, une partie d'ailleurs des gens
il était
dans la charrette.
Il a quand même dit que il commitait l'investissement long terme sur le métaverse. Hein.
Ah ben, l'argent, il l'a déjà sorti, donc il faut qu'il l'assume maintenant, effectivement. Mais en tout cas, il n'y aura pas de nouveaux investissements dans le métaverse. Et justement, dans les services annexes, notamment le Web3, les NFT, ces saloperies-là, vont également se faire un petit peu couper la tête chez Meta. Donc du coup, les NFT, ça va dégager au fur et à mesure. Tout ce qui y est lié, ça va dégager aussi un peu au fur et à mesure. Et en gros, ouais, ça s'inscrit un petit peu dans la logique de ce que Zuckerberg avait annoncé au début de l'année, où il disait que 2023 allait être l'année de la rentabilité, en gros. Et du coup, ben voilà, la rentabilité, c'est on dégage tous les services qui servent entre guillemets à rien, c'est-à-dire qui ne rapportent pas, et aussi et surtout, eh ben, on licencie des gens parce que malheureusement, c'est comme ça qu'on devient rentable.
Évidemment.
Quand on n'est pas le plus facilement. Et donc, il y a 10 000 personnes qui devraient. Alors, c'est un peu cruel comme annonce de la part de Meta, mais ils annoncent qu'il y a 10 000 personnes qui devraient sauter prochainement, mais au cours des deux prochains mois. C'est-à-dire que là, actuellement, y a pas mal d'employés qui ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête et qui ne savent pas trop s'ils vont se faire dégager dans les semaines qui viennent par
leur patron. Les 10 000 personnes, ce n'est pas du tout le staff qui bossait sur les NFT. On est d'accord.
Pas que. Alors, sinon, il n'a pas précisé. Ils ont donné 3 départements qui devraient être touchés dans les mois qui viennent. Ça va commencer. Alors, attendez, je l'ai noté quelque part, mais ça va commencer par, il me semble, le support, un truc comme ça. Ça va continuer avec la tech. Et donc, du coup, la tech, c'est relativement large. Ça peut être des front-end, comme ça peut être des développeurs blockchain. On ne sait pas. Et ça va se finir par des parties management ou du RH ou des trucs comme ça. Donc voilà, il y aura 3 grosses vagues de licenciements entre maintenant et le mois de mai, globalement, quoi, entre maintenant et cet été, pour faire simple. Et du coup, voilà, ils ont annoncé ça maintenant, sans préciser exactement qui allait être touché, dans quelle mesure, etc. Donc effectivement, là, je pense qu'il y a un certain nombre d'employés chez Meta qui ne doivent pas dormir tranquillement en ce moment.
Tu
doivent mettre à jour leur CV de manière prévisionnelle, mais voilà, ça va toujours pas super bien chez Meta en ce moment. Bon, alors, après, il y a eu des échos aussi, il y a pas mal d'échos qui arrivent de la Silicon Valley, de gens qui sont partis ou qui bossent avec Meta, etc., qui racontent que ils ont tellement embauché, et visiblement c'est pas un problème que de Meta, mais de pas
oui,
mal
c'est ça.
Entreprises,
c'est ça, ils avaient surembauché.
Ouais, voilà, ça expliquerait en partie les grosses vagues de licenciements qu'on voit depuis l'hiver dernier, qui est que ils ont tellement embauché. C'est en 2022 que désormais ils se retrouvent avec des ingénieurs qui ont été embauchés pour bosser sur un projet qui est terminé et aujourd'hui ils n'ont plus rien à faire, on n'a pas de boulot à leur donner, donc du coup on est obligé de les dégager un petit peu. Il y a une partie de ça et il y a aussi une partie de Meta a perdu beaucoup de thunes à cause du métaverse et du coup il faut commencer à réduire un peu les coûts. Et vu que financièrement, au-delà de ça, l'année 2022 était particulièrement dégueulasse et l'année 2023 s'annonce également particulièrement dégueulasse, au moins sur les premiers mois.
Ah bah là,
ça coupe un peu partout. Ouais.
Là, avec ce qui se passe du côté de la SVB, là, je pense qu'on va,
ouais,
ça va charcler, hein, ça va charcler dur. Hein.
Oui.
Ce n'est que le début. Hein. On continuera de toute façon à faire les points récession, évidemment, dans cette émission. En plus, ça tombe bien parce que comme on fait une émission tous les 8 ans environ, on aura l'occasion du coup de voir l'évolution.
Toujours des trucs à dire, c'est pratique.
Voilà.
Juste pour rajouter, ouais. Pour info, Microsoft a shut down en fait son métaverse. Hein. Donc toute sa plateforme de métaverse, Microsoft a fallu hop, on arrête tout. Donc,
ils sont tous en train de se rendre compte que c'était pas une bonne idée.
Voilà,
ils avaient une plateforme de métaverse, Microsoft.
En fait, tu sais, après à un moment donné, ils se sont dit que le métaverse et Teams, tu sais, ça pouvait peut-être matcher à un moment donné. Sauf qu'en fait, ils se sont dit.
Pire idée.
C'est pour ça qu'ils l'ont abandonné, ils arrêtent tout. Et là, ils ont annoncé dans Teams d'ailleurs qu'on allait pouvoir avoir nos avatars. Donc, je pense qu'ils ont peut-être dû récupérer 2-3 technos de leur test, de leur tentative de métaverse pour la foutre dans Teams. Et voilà.
Bah, ils vont.
Ça fait 3 ans hein, qu'on leur dit que c'est une idée de merde, mais bon.
Ah, le chat, le chat VR dans le métaverse, oui, je confirme que c'est de la daube, hein, mais. C'est bien qu'ils s'en rendent compte. Au moins, on peut au moins leur laisser ça. C'est que quand ils se rendent compte qu'ils ont fait de la merde, ils reviennent un petit peu.
Ah, bah, hein. Microsoft, ils n'hésitent pas, hein. Là, c'est sûr.
Ouais.
Ah oui, non, c'est sûr. Mais Meta aussi, de toute façon, ils vont revenir. Enfin, ça fait partie des boîtes qui sont un peu too big to fail. Alors, j'aurais dit la même chose de Twitter il y a quelques mois. Maintenant, j'en suis pas sûr. Mais Meta.
Ouais, après, Twitter, ça tient. Hein.
Il faut le dire vite quand même que ça tient. Il est en panne toutes les 2 semaines. Parfois, oui, tu peux pas tweeter, tu sais pas pourquoi.
Tout
ce qui était gratuit jusqu'à maintenant. Si demain matin, je me lève et qu'on m'explique que pour tweeter plus de 3 tweets par jour, il faut que je paye 8$, je ne serais même pas surpris, en fait. Ça serait complètement dans la logique de ce qui se passe depuis 6 mois chez
Twitter. Ça m'étonne que ça ne soit pas tombé dessus encore, tu vois. Parce qu'il y avait c'était dans les cartons, alors. Hein. C'était plus 3, c'était quoi? C'était une vingtaine, je crois, de tweets.
Ouais, ils avaient... Mais en fait, ça, c'était un bug.
RT compris. Ah, c'était une erreur.
Ouais, c'était une erreur. En fait, c'était une fonction qu'ils avaient créée pour faire une sorte d'anti-spam. Quand ils repéraient des comptes qui postaient trop souvent de la merde ou de la pub ou des virus ou des trucs comme ça,
ouais.
Il y a quelqu'un là-bas qui avait créé une fonction pour limiter justement ces comptes-là que tu pouvais activer au cas par cas. Elle était uniquement en production, enfin, elle était uniquement en test et pas en production, pas sur le site réellement. Et cette personne-là, entre-temps, a été virée. Du coup, personne ne savait à quoi servait ce truc. Quelqu'un a effacé les dossiers qui étaient autour de cette fonction, ce qui a visiblement a publié la fonction par accident. Et du coup, on s'est tous retrouvés avec
un
Twitter qui était limité. Ouais.
Ok, donc là, c'est bon. C'est pas la faute de. Enfin, si, c'est la faute de Musk, parce que c'est quand même.
C'est la faute de Musk. Tout est la faute de Musk.
Tout est la faute de Musk. Tout est la faute de Musk. Très bien. Merci, Oni. On va passer vite fait sur un petit truc qui m'a interpellé. Figurez-vous que, on le sait, hein, Tim Cook n'est pas Steve Jobs. Mais du coup, ça on le savait déjà, hein, qu'il était beaucoup plus fonctionnel, prod que designer et conception.
C'est du business, hein, toi.
Ah bah oui, non, clairement, il était responsable de la supply chain. Donc, clairement.
Steve Jobs était un hippie et Tim Cook c'est un businessman.
Voilà, et bah du coup, là on a un rapport de chez Ars Technica qui nous explique que. Tim Cook aurait overruled, comment on dit ça en français? Putain, je sais plus parler français, ça
m'est rejeté.
Non,
outrepassé
l'équipe du design de chez Apple dans le cadre de, vous savez, qui sont supposés faire un casque ARVR. Moi, je demande à voir, surtout au niveau de l'intérêt, mais bon, pourquoi pas. Et donc, a priori, l'équipe de design demandait une extension, hein, une rallonge de temps pour pouvoir continuer à bosser sur le truc. Et lui, il a dit, eh ben non, on va respecter le planning. Voilà. Hein, donc, c'est très rare.
Ça va cruncher chez Apple, incroyable.
Ouais,
comme
ou en tout cas...
De Jobs, incroyable.
Ou en tout
ça,
cas...
Comme à l'époque de Jobs.
Non, mais ou en tout cas, ça va en tout cas mettre moins l'accent sur les designers qui décident tout et les ingénieurs qui essaient de raccrocher derrière. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Honnêtement, moi, je trouve que de toute façon, le design des machines Apple, ça fait quand même pas mal de temps qu'on est habitué, il n'y a pas de... Tu vois, il n'y a pas de... C'est des belles machines, c'est bien fini, etc. Mais je veux dire, ça fait longtemps que ça ne me fait pas baver.
Donc là, c'est business as usual. Hein.
Oui, voilà, c'est ça. En fait, ils étaient encore sur l'héritage de ce que Hive avait proposé. Bon, ok, cool. Savoir qu'en fait, ils commencent à dire, bon, les gars, on va arrêter un peu les appareils avec un port USB situé à un endroit complètement con et on va essayer de faire des trucs un peu plus fonctionnels. Moi, ça me semble pas débile.
Mais d'ailleurs, aparté sur les câbles USB,
ouais.
T'as vu que en fait, si Apple se met au câble USB-C pour charger ses iPhones,
ouais.
En fait, ton iPhone ne pourra être chargé pleinement et avoir la data pleinement que via les câbles USB-C officiels Apple ou le programme MFI. C'est-à-dire qu'en fait, ton câble chinois, ça a deux balles USB, en fait, c'est ne chargerait pas à pleine vitesse ton iPhone. Et pour les genre, c'est CarPlay, si tu veux brancher ton iPhone sur ouais. CarPlay, en fait, si t'as pas le câble officiel USB-C,
Franchement, tu sais quoi, j'ai envie de dire bien fait pour ta gueule l'Europe. Parce que c'est l'Europe qui leur met la pression là pour. Moi, ça me fait chier, hein. Dès qu'on passe à l'USB-C, j'ai 12 000 câbles qui vont arrêter de servir. Donc, moi, j'étais très bien avec le Lightning, ouais, hein, en vrai. Clair. Donc que Apple troll en mode ok, on passe à l'USB-C, mais pour débloquer l'intégralité des features, il faut que tu prennes les câbles à 29 balles. C'est tellement Apple Core comme
oui, c'est complètement dans le ton.
Moi, j'applaudis.
Moi, j'étais pas surpris non plus. Hein, c'est en mode
ah, bah oui, non. Donc, entre ce genre de move-là qui est complètement Apple et le fait que j'allais dire Steve Cook, mon Dieu. Que Tim Cook commence à réfléchir à l'héritage, parce que apparemment c'est ce qu'il se dit, c'est que il est en train de il veut laisser une trace dans l'histoire d'Apple, puisqu'il se murmure que il prendrait sa retraite autour de 2027. Donc est-ce que laisser une trace, c'est réussir à sortir un casque VR AR, je ne sais pas. Je sais même pas. Est-ce que vous avez une idée de quand est-ce que c'est prévu ce truc là de toute façon?
Aucune.
Est-ce qu'il y a une roadmap, une timeline?
2024, en fait. Pour, c'est l'Europe, c'est 2024 la mise en place.
Non, je parle pas des câbles. Hein. Moi, je parle du casque.
Le casque VRR. Ah. Déjà, le principe. C'est déjà extrêmement rare qu'on entende parler d'un produit Apple en préparation qui soit pas sorti et qui n'ait pas été annoncé.
Oui, c'est vrai.
Enfin, ou alors qu'il ne soit pas de la rumeur sortie de nulle part, tu vois. Mais là, ça vient directement d'employés qui auraient parlé de trucs comme ça, c'est extrêmement rare. Ça, chez Apple, ce serait jamais arrivé sous Steve Jobs, par exemple.
Ah bah si, mais il y aurait eu des têtes qui auraient roulé juste après, quoi.
Oui.
Non, mais voilà, donc fuck le design, let's go vendre des trucs. Très bonne mentale.
Mais
chez
Steve Jobs, il aurait fait la même, hein, sans déconner. Hein.
Si.
Steve Jobs, c'était clairement le mec qui décidait un truc et les gens lui disaient, mais c'est pas possible. Si, non seulement c'est possible, mais en plus on va le faire. Et
oui,
le
pire, mais tu sais.
Il le faisait.
Oui, mais ouais. il était toujours drivé côté design. En fait, c'était les designers qui disaient, ouais. On aimerait bien faire un truc qui ressemble à rien. Et après, il disait, bon, maintenant les ingénieurs, démerdez-vous pour caler ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Mais ouais. Tu vois, c'était toujours l'équipe design qui était à la réflexion. C'est pour ça qu'on a eu des trucs absolument débiles comme la Mighty Mouse qui se rechargeait à l'envers, là. Tu vois, avec le port Lightning sous la souris, etc. Donc tu pouvais pas la charger et l'utiliser. Ce genre de points qui sont, designement parlant, ça se comprend. Je ne veux pas avoir un port visible sur ma machine. Ouais, superbe. Mais à l'usage, en fait, c'est complètement con. Donc, bon, on va voir. On verra comment ça va se goupiller. Et on va rester, sur la côte ouest des États-Unis pour parler avec toi, Oni, de... Et après, on bascule sur tes tests, bien sûr, Penta, pour parler avec toi d'une nouvelle triste chez Nvidia, du coup. Oh, moi, je suis déçu.
Un petit peu, ouais. Un niveau de nouvelles un petit peu triste chez Nvidia. En fait, vous l'avez peut-être pas remarqué, parce que j'imagine que, comme des êtres humains normaux, vous n'achetez pas des cartes graphiques tous les 4 matins avec le pain. Mais sachez, si vous l'aviez loupé, que Nvidia a officiellement retiré les RTX 3000 en Founders Edition de sa boutique en ligne.
Regardez, j'essaye de mettre une Nvidia.
Ah, mais tu n'en verras pas. Ouais, tu n'en verras pas. C'est un peu la tristesse.
Il n'y en a pas.
C'est un peu la tristesse. Alors, elles étaient disponibles environ jusqu'à la semaine dernière. Elles ont disparu en cours de semaine dernière. Alors, comme d'habitude, Nvidia n'a pas communiqué officiellement là-dessus, n'a pas donné de raison ni quoi que ce soit. Cela étant, il y a des rumeurs sur la fin de la production des RTX 3000 depuis à peu près le mois d'octobre dernier, qui ont commencé à sortir dès le mois d'octobre dernier, comme quoi Nvidia était sur le point d'arrêter la production de ces RTX 3000 en vue du remplacement par les RTX 4000. Ce qui est un peu surprenant là quand même, c'est que ça se soit fait du jour au lendemain et surtout sur des modèles qui n'ont pas encore de remplaçante sur la génération actuelle, c'est-à-dire que là, on ne peut plus acheter de 3070, on ne peut plus acheter de 3060. Ce sont des cartes qui sont généralement parmi les modèles les mieux vendus hein, chez les cartes graphiques de chez Nvidia,
ouais.
Qui n'ont pour l'instant pas de remplaçante en génération 4000. Donc
parce qu'elles sont listées, mais
Elles sont listées parce que tu peux toujours acheter des cartes partenaires. Alors visiblement, ouais. Attends, si tu décoches tout, elles disent, il n'y en a plus là. Si tu décoches tout.
Non. Attends. Là, je coche que les 4070. Ouais.
Normalement, tu peux lister les 3080 uniquement, par exemple. S'il en
reste. Oui.
Mais j'ai pas fait l'expérience aujourd'hui, mais normalement, il devait rester des 3080 chez Nvidia, mais c'est que des cartes partenaires, du coup.
Oui, donc, voilà, c'est coup, ça, c'est des cartes constructeurs, voilà. Ouais.
Et surtout, le gros problème, c'est que si tu regardes le prix des cartes, on est très, très, mais alors très, très loin.
Non, mais ils ont fumé.
La 3080 qui est plus chère que la 4080, quoi.
C'est quoi cette connerie, hein, ouais. Ah ouais.
Ah bah c'est quoi cette connerie? C'est que y a plus de Founders Edition déjà pour driver le prix vers le bas, puisque ces cartes-là étaient censées être vendues systématiquement au MSRP qui était à 750 €, je crois.
719.
719, d'accord. Et du coup, y a plus les Founders Edition pour driver les prix vers le bas. Donc, c'est devenu un petit peu la fête chez les revendeurs partenaires. Et en plus, étant donné que ça semble confirmer les rumeurs qui traînent depuis plusieurs mois comme quoi Nvidia arrêterait la production des RTX 3000, ça sous-entend aussi que les constructeurs partenaires qui continuent de vendre les cartes, là, ils sont actuellement sur les stocks, mais ils ne vont plus recevoir de nouveaux matos de la part de Nvidia pour fabriquer à nouveau des cartes. Et donc, les 3080 que tu vois là et que tu peux acheter actuellement, ce serait visiblement les dernières.
À 2000 balles quand même, ça va bien avec les comptes Pentaro. Hein.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est raccord du coup. Mais voilà, on arrive visiblement sur la fin de génération, ce qui n'est pas surprenant non plus, puisque là, les premières RTX 3000 sont sorties il y a un petit peu moins de 3 ans. Maintenant, c'était à l'été 2020.
Oui.
Donc il était temps que la génération s'arrête. Malheureusement, c'est une génération que les gens normaux n'ont pas franchement connue. Puisqu'entre
génération
les pénuries,
sacrifiée, ouais.
Et voilà, entre les pénuries, les NFT et l'explosion, enfin les NFT, les crypto-monnaies et l'explosion des prix même après le retour en stock, les gens normaux ont eu très très peu de chances de pouvoir s'acheter un modèle à un prix correct et avec une dispo normale. Donc là, actuellement, si vous voulez de la Founders, il ne vous reste plus que les 4000, voilà, les deux qu'on voit là qui coûtent extrêmement cher. Et qui sont de toute manière des cartes surpuissantes qui ne vont pas convenir à tous les usages.
Puis qui sont en rupture de stock en plus.
Et qui sont en plus en rupture de stock en version Founders, donc c'est vachement pratique. Ouais. Et du coup, si vous voulez de la carte un peu plus abordable, si vous voulez jouer en 1080p60 chez Nvidia, pour l'instant, c'est soit de la carte partenaire en espérant qu'il en reste, soit
ce qui est marrant, c'est que
une annonce de 4070.
Ce qui est marrant, c'est que tu vois, voilà, j'ai mis 4070 constructeur tiers. Ah non, il y a de la TI,
oui.
D'accord. Il y a de la TI, mais pas de la
version laptop. Non, la 4070, justement, elle n'a pas encore été annoncée par Nvidia. Alors, ils ont des confs qui arrivent à la fin du mois, là, de mars. Donc, on s'attend. En tout cas, on espère très fort qu'ils vont annoncer de la 4070 et peut-être même de la 4060 parce qu'il serait temps que ça arrive. Mais pour l'instant, on ne sait pas du tout ce qu'il en est. On ne sait pas quand ça sort. Les rumeurs disent qu'on pourrait voir de la 4070 arriver à la vente dès le mois d'avril. Mais pour l'instant, il va falloir attendre qu'Nvidia le confirme. Un petit point intéressant à noter avant de terminer sur la boutique de Nvidia, c'est qu'ils ont retiré les 3000 en version Founders. On peut toujours évidemment trouver des cartes partenaires, mais on peut aussi toujours trouver des séries 16, les 1650 et 1660, qui sont des cartes de la génération Turing, hein, donc qui datent de 2018-2019, sont toujours en vente. Des cartes d'entrée de gamme de l'époque sont toujours en vente sur la boutique d'Nvidia.
Je comprends pas comment c'est
intéressant.
C'est parce qu'ils ont du gros stock, parce que je doute qu'ils en construisent.
Non, parce qu'elles sont probablement toujours produites, celles-là. Elles sont probablement toujours produites. En fait, les séries 16 étaient sorties pour faire des versions des cartes Turing, donc des RTX 2000, mais sans les unités de ray tracing et sans les unités de calcul d'IA, pour simplement les vendre moins cher, pour faire du vrai entrée de gamme. Ils n'avaient pas sorti d'équivalent de ces cartes avec les RTX 3000. Il n'y a pas eu de version 1660 en version 3000. Enfin, pour l'équivalent 3000. Du coup, ils ont continué à produire ces cartes-là en disant, voilà, vous avez toujours de l'entrée de gamme, ne vous emmerdez pas. Là, avec les 4000, on ne sait pas trop ce qu'ils prévoient, mais là, leur entrée de gamme, maintenant, désormais, officiellement, ce sont des cartes qui ont 4 ans. Ça commence à faire.
Ça parle aussi de concurrencer Intel qui est assez agressif sur les tarifs avec leur Intel XE. Hein, donc, il faut qu'ils s'alignent sur des trucs à 200 balles et c'est là où se positionne Intel. Donc, ils ont quelque chose à répondre en face. Hein.
Il serait peut-être temps de mettre à jour leur truc quand même. Parce que
ils pourraient répondre en face avec une carte récente, 4050,
en fait.
Par exemple, une 4050 qui coûterait moins de 300 balles et qui serait pas une carte toute pourrie.
Ouais, mais il faut aussi dire que les demandes.
Le mot est lâché.
Le GPU baisse, si tu veux. Donc, les mecs, est-ce qu'ils vont aussi. Moi, c'est comme ça que je vois aussi. C'est que est-ce qu'ils vont continuer à garder, tu vois, les 3000, des 4000, sachant que la demande baisse Bah, les mecs, je pense qu'ils préfèrent faire des économies logistiques, arrêter des unités de production, tu vois, sur un truc 3000 et focus sur 4000 et forcer aussi les gens à acheter de la 4000.
Non, mais d'accord, mais personne ne les avait forcés, par contre, à sortir des séries 4000 alors que justement. Les trois quarts de la planète n'avaient pas eu l'occasion de mettre la main sur une 3000.
En fait, c'est d'une part le souci, et d'autre part, la demande, elle baisse, mais elle baisse aussi à cause du prix qui est trop élevé pour tout le monde.
Oui.
C'est ça le truc. Là, tu regardes les 3080 qui sont proposées, elles sont toutes à 1200 balles minimum, c'est 50% de plus que le prix que le MSRP, quoi. Donc, c'est normal que les gens ne veuillent pas dépenser leur thune quand c'est tout ce qu'on leur propose. Il y a ça aussi.
Après, il y a aussi la concurrence d'AMD. C'est-à-dire que
ouais, ça, j'attendais qu'on en parle.
De ne pas avoir un GPU, tu vois, qui fasse moins bien qu'un GPU AMD. Hein. Donc, ça, je pense que les mecs se disent, faut qu'on dégaine. Et puis, il y a Intel aussi, encore une fois. Donc, il faut qu'ils se disent, faut qu'on dégaine.
Ouais, mais Intel ils sont carrément sur un autre marché, tu vois. Donc,
Oui, mais ça fait quand même une épine en plus, tu vois, dans le pied de Nvidia qui était tranquille sur. Sur la carte à 200 balles, tu vois, ils étaient seuls, ils étaient tranquilles. Donc les 1650, les 1660. Et en plus, quand tu vois, j'ai posté sur Twitter il n'y a pas très longtemps les stats Steam, tu sais, des GPU les plus utilisés.
Ah, parce que la 1660, ouais. La 1650.
La 1650, 1660, c'est dans le top 10 des GPU les plus utilisés sur Steam, tu vois.
Mais parce qu'il n'existe que ça en entrée de gamme. En entrée de gamme, qui ne soit pas de la carte toute merdique. Hein,
parce c'est aussi les GPU qui foutaient dans les laptops. Laptop gamer d'entrée de gamme à moins de 1000 balles.
Dans les laptops gamer d'entrée de gamme. Mais parce que oui, c'est absolument tout ce qu'il existe en entrée de gamme, on va dire correct. Parce que sinon, tu vas t'acheter une Radeon 6400 et tu peux jouer à rien. Déjà, il faut pas installer les drivers, tu vois.
Ça s'appelle toujours les catalystes, les drivers des Radeon ou pas?
Adrénaline maintenant.
Ça Adrénaline, ok, ouais. D'accord. Parce que Catalyst, je trouvais ça marrant comme nom. Ok, donc bon, bah, c'est la crise, hein, voilà. Rien de nouveau sous le soleil. On passe à toi, Penta, en termes de test là. Tu voulais basculer sur quoi? Attends, je regarde le conduc.
Le Mac Mini M2 Pro.
Ah, bah là, en plus, vous êtes deux à pouvoir en parler, donc ça, c'est chouette.
Et là, t'as pris le Pro aussi, Oni? En Mac Mini?
Ouais, j'ai un Pro, ouais.
Déjà, de toute façon, bah, depuis le M1, je suis conquis. Enfin, hein, là, pour le coup, y a pas photo. Et là, en plus, t'as plus de cœurs GPU, t'as plus de cœurs tout court. Ça fait toujours zéro bruit, ça chauffe pas, ça consomme rien.
C'est incroyable.
T'as un max de ports. En fait, j'ai pris la version Pro, c'est pour la quantité de ports USB-C et USB-A qu'il y a derrière.
Pareil.
Même si le port HDMI, du coup, moi, je l'utilise pas. Il y a un port Ethernet et ça, c'est quand même aussi bien agréable. Bien sûr, je joue pas avec, je fais pas de montage vidéo, je fais pas de montage audio parce que je suis pas YouTuber, je suis pas.
C'est-à-dire que tu fais rien en fait.
En fait, je fais du dev. Je dev. Et c'est vrai que du coup, avoir une machine qui a de la patate pour faire un peu d'inférence d'IA, d'entraîner un peu les IA, de faire tes trucs au quotidien avec un silence royal et des perfs de fou furieux, et ben voilà, c'est une putain de tuerie, quoi. Donc, vraiment, c'est. J'adorais le M1, j'ai revendu le M1, le M2 Pro, je le kiffe, vas-y, Oni, je sais pas. Fin...
Mais j'allais dire, si tu veux, pour la vidéo, je peux en parler, parce que pour le coup, moi, j'en fais beaucoup de la vidéo avec depuis quelques semaines, là. Et je suis franchement impressionné, parce que pour le coup. Avant ça, de la vidéo, j'en faisais sur mon PC. Mon PC, c'est quand même pas un PC d'entrée de gamme. Le CPU, c'est un 3950X. Et malgré ça, depuis que je suis passé sur le Mac, putain, mais je fais tout deux fois plus vite. Je peux streamer avec une qualité que je pensais pas atteindre avec le PC. Et comme tu disais, le Mac, il souffle pas, il bronche pas. Il a aucun souci. Les montages vidéo, ça va super vite. Je suis toujours impressionné. De toute façon, les résultats sur Geekbench et compagnie, ils sont dispo sur le net, ils sont toujours hyper impressionnants. Ça explose pas mal de CPU de haut de gamme sur le PC. Et c'est pas par hasard. Et franchement, ça se ressent à l'usage. Hein, franchement. Ouais.
Par contre, un
tout ça pour moins cher qu'une 4080, c'est quand même incroyable.
Un truc que j'ai pas compris, par contre, c'est pourquoi ils ont sorti le M2 Pro en Mac Mini et pas le M2 Max, sachant qu'ils ont sorti le M2 Max sur le MacBook Pro, quoi. C'est-à-dire qu'ils font le plus gros SOC.
Mais non, mais c'était pour vendre.
Pas sur un Mac Mini, quoi.
C'était pour vendre leur cinéma Mac Studio, là. Je sais plus comment il s'appelle, là, non?
Non, mais c'est surtout parce qu'à la base, je pense qu'ils ont aussi un problème de positionnement. Ils ont un problème de positionnement. C'est qu'à la base, le Mac Mini, c'est pas tellement une machine pro. C'est censé être une machine familiale.
Oui, mais
déjà, le principe de mettre un M2 Pro dessus, c'est hors. c'est un peu hors norme pour eux. Et du coup, j'imagine que le M2 Max et le M2 Ultra, ils vont le réserver pour le Mac Studio.
Ouais. Bah ouais, pour le.
Parce qu'ils parlent déjà de M3.
Le Mac Maxi, en fait, hein,
donc,
le Mac Studio.
Ils vont peut-être sortir. Parce qu'en plus, il y a la WWDC hein, qui arrive en juin. Donc, il a conf développeur.
Ouais,
donc,
mais ils sortent pas du matos. Ah, si, ouais, ils vont peut-être présenter une machine, oui. Ouais, mais ça sera un Mac Pro. Oui, ouais.
Un Mac Pro M3 Ultra XL, voilà.
Mais en fait, moi, j'ai quand même une question, là. Est-ce que vous croyez pas qu'en termes de perf, ça y est, on est servi, là? Sans déconner. Je veux dire, il y a personne qui. Mais non, mais il y a personne qui fout à genoux sa machine, là.
Si,
moi, je peux la foutre à genoux.
Ah ouais,
l'encodeur logiciel de sur OBS, je suis au réglage moyen et j'ai déjà une image super clean et je pourrais foutre le réglage au maximum. Et là, j'enregistre comme ça en tout cas en local record, j'ai 4 FPS. Donc il y a toujours moyen de faire mieux. Enfin, tu peux toujours avoir
pareil,
une meilleure image.
Toujours,
oui.
Si j'entraîne une IA qui me prend 8 heures d'entraînement, bah, si un jour je peux avoir du matos pour l'entraîner en 2 heures, je suis content. Hein.
Mais là, quand je dis qu'il est impressionnant, c'est que par rapport à mon PC, qui est une pure machine, enfin voilà, un PC auquel j'ai rien à reprocher, le Mac Mini, qui m'a coûté la moitié du prix, va deux fois plus vite. Et c'est flippant parfois.
Ouais. Oui, c'est ça. En fait, je me dis, pour l'homme de tous les jours, que moi j'incarne hein, dans cette émission, vous êtes les nerds, je suis le bon sens paysan. Moi, je me dis, franchement, je vais pas taper mes emails deux fois plus vite avec...
Ils ont sorti le Mac Mini calcul, là, à 800 balles, je crois, c'est ça. C'est 800 balles, hein, le nouveau prix du Mac Mini.
Le prix de départ, c'est 700.
Non, c'est 700. C'était 700.
Le prix de départ, c'est 700. Si tu prends la version avec le M2 Pro, ça commence à 1500.
C'est 699.
Ouais, 699.
Voilà, donc 700 balles, avoir une machine pareille, parce que rien que le modèle de base, pour un paysan du 9.4 comme toi, Daz, franchement, ça fait plus que le taf. Pour 700 balles, si tu as un écran, tu te poses même pas de questions, quoi. Enfin, tu vois. Et pour jouer maintenant avec GeForce Now et compagnie, bah franchement, pourquoi te faire chier à acheter un gros PC, hein ? Vraiment. Hein ?
Non, complètement.
Par contre, tu as moins de connectique sur le non pro. Donc, tu dois avoir genre deux
ports
USB-C.
En tout, t'as 4
USB. Ouais, c'est ça, ouais. T'as deux USB-C, deux USB-A, je crois, sur le non pro, mais.
Ouais, mais le problème, c'est voilà, Turbo Mouton dans le chat explique bien le dilemme qui m'anime. Puisque ce prix-là, 700 balles, c'est le prix d'un Steam Deck full featured. Exactement. Il y a des priorités dans la vie. Eh oui.
Ouais, mais quel putain de rapport, c'est... quoi.
moi, j'ai qu'une fois 700 balles à mettre dans une machine. Alors, est-ce que c'est pour prendre un Mac qui va me permettre de faire de l'IA et du montage,
chose que je ne fais pas.
Steam
Deck, c'est du Linux derrière, donc tu peux peut-être brancher ton Steam Deck sur un écran, lancer un GNOME Desktop et du coup avoir un PC.
Ça tu peux le faire.
Tu peux le faire nativement, mais bon, après, tu auras des perfs qui ne sont pas des perfs de PC fixe. Hein, mais voilà, non, il faut.
Ce que tu peux faire sinon, c'est que tu achètes un Mac Mini, tu installes Linux dessus et tu auras des perfs de PC fixe. Mais moi,
c'est Linux de base, un Mac.
De toute façon, oui, c'est Unix.
C'est Unix.
De base, donc voilà quoi.
Oh là là, attendez, on a un raid. Merci Lydia pour le raid. Bonjour les Loutos et les Loutas.
Bonjour.
Bienvenue sur un stream qui va vous changer hein, de ce que vous faisiez certainement avec Lydia. Je ne sais pas, vous deviez jouer à des jeux confidentiels. Ici,
Lydia, c'est une putain de développeuse Python. Hein, qu'est-ce que t'en sais,
Mais pourquoi pas? Je suis sûr que ça l'intéresserait en plus parce que Lydia est curieuse. En plus d'être généreuse.
On fait un stream développement d'une IA en Python avec Lydia.
Déjà, j'essaie de faire un stream carrière commande 2 avec Lydia, c'est pas gagné. Hein, donc, pour développer des trucs en Python, on va attendre un petit peu. Globalement, vous avez acheté des Mac Mini à 1550 balles et vous en êtes content. Écoutez, si moi, vous êtes content, moi, je suis content pour vous, même si j'ai toujours pas de Steam Deck. Alors, que reste-t-il de nos amours? Attends, je regarde le petit conduc. T'avais encore un test à passer, toi, ou pas, là? Non.
J'ai testé la Peugeot i208 GT.
Ouais, bon, on va peut-être s'arrêter là pour les tests, là, ça commence
et
à partir dans tous les sens.
La Volkswagen ID3, je suis assez pressé, tu vois, d'ailleurs. J'ai jamais conduit de Volkswagen de ma vie. Ah si, une Golf, une fois.
L'ID3, c'est pareil, hein, c'est la Golf, mais électrique, hein, voilà, ça change pas grand-chose.
C'est pas l'ID2 qui était censé remplacer la Golf, hein.
Ah, pour moi, c'était la 3, non
c'est, okay. La 3, c'est pas un peu look SUV, mini SUV, urbain, tout ça?
Bah comme toutes les... Ah ouais, peut-être. Ouais, j'avoue que moi, les gammes, de toute façon, les constructeurs allemands, je ne comprends plus rien. Donc j'ai renoncé en fait à essayer de suivre ce qu'il faisait. Non, on va pas parler de ça. On va parler plutôt. Ben on va parler. On va passer directement au talk en fait.
J'avais testé la e-tron hein, quand elle était sortie. Hein, le gros SUV là qui ressemble à un Q9 énervé là. Ouais. J'avais testé. Hein. C'était à l'époque où on faisait le JDH et Audi m'avait contacté pour la tester.
Oh, Audi, Acer et Audi. Audi et Acer, bien sûr, Dassault Auto. mais non, c'était quoi le truc là, le truc où on était monté là, j'étais monté avec toi et...
C'était la Tesla
Non, j'étais monté dans une Audi et il y avait des caméras qui reproduisaient en 3D le parking A7. De Webedia.
C'était la A7 qu'on m'avait prêté aussi, la Audi A7.
Putain, et franchement...
Pourquoi t'as besoin de caméras qui reproduisent son environnement en 3D? Tu le vois pas depuis l'habitacle?
Me pose pas cette question à moi, Oni, tu sais bien que...
Avec un capot de 30 mètres devant toi, qu'en fait, tu vois plus rien, quoi.
Mais le truc, il te refaisait en 3D temps réel le parking de Webedia, quand même. Hein. Texturé
non,
et tout.
Mais non, je veux bien le croire. C'est juste l'intérêt qui m'échappe.
Ah, bah, il n'y en avait aucun. Si, Pentaï m'avait dit qu'un des tests, c'était de foutre un carton sur le pare-brise et de pouvoir sortir d'un parking uniquement en regardant l'écran. Et ça marche.
Ah non, bah oui, mais bon... Un pare-brise, ça marche bien aussi, ça tombe pas en panne, ça lag pas.
Et la voiture était censée sortir aussi toute seule du parking pour te rejoindre. Mais ça, ils l'ont jamais mis en production, ça.
Oui, ça doit marcher.
Les voitures qui se conduisent toutes seules, moi, je me méfie toujours un peu.
Oui, de toute façon, même les gens qui disaient que ça allait le faire, ils disent que finalement, ça sera pas tout de suite. Hein,
surtout les voitures sans lidar, tu vois, qui m'inquiètent, en fait.
Oui, une marque en particulier qu'on ne citera pas parce que potentiellement.
Avec un truc comme ça, là, qui ressemble un peu comme ça, le logo d'ailleurs.
Ouais, comme une encre de bateau, un peu le logo de Sopiquet, mais à l'envers.
Inversé,
ouais. Non, bah du coup, on va parler, on va passer au talk et on va parler du coup du sujet qui secoue complètement Internet en ce moment. C'est évidemment la faillite. Est-ce que c'est une vraie faillite? Je ne sais pas, mais en tout cas, les temps sont durs pour la Silicon Valley Bank. Et là où ça nous touche, nous, adeptes de tech, c'est que, de ce que j'ai compris... Pentaro, tu me diras si je me trompe, mais la SVB, c'était un peu la banque qui finançait toutes les startups de la galaxie.
Ah, mais c'était la banque des startupeurs, la banque de la Silicon Valley, c'était...
La banque des fonds d'invest,
Exactement, des VC, des venture capitalistes, etc. Mmh. Oui, c'était vraiment le symbole de la réussite de la Silicon Valley dans tout l'excès qu'il y a. Et c'était, enfin voilà, tous les start-upers, le premier réflexe c'était d'aller voir la Silicon Valley Bank. Et un pote là, dont on parlera un peu plus tard, et qui a monté sa boîte il n'y a pas très longtemps, voilà, les SVB s'est pointé tout de suite pour essayer de financer ces trucs, et ils avaient un max de pognon. Et ce qui s'est passé en fait, globalement, il y a quelques années de ça, pendant le Covid, je vous rappelle que les taux d'emprunt étaient négatifs pour les banques, c'est-à-dire qu'en fait les banques, on leur donnait de l'argent pour qu'elles empruntent de l'argent. Voilà, donc quand nous on empruntait pauvre Kidam à zéro et quelques, on était super contents, et en fait un pote banquier me disait, on pourrait te faire un taux zéro, on continuera à gagner de l'argent parce que nous on emprunte négativement. Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de banques qui se sont gavées à cette époque là et qu'on fait des paris sur des taux d'emprunt peu élevés, et puis les taux d'intérêt peu élevés, et puis là la Fed il commence à parler d'avoir un taux d'intérêt, je crois, à 5,75%. Donc, quand toi, tu fais tous tes paris banquiers sur un taux d'intérêt faible et qu'on te sort 5,75, c'est compliqué. Tu rajoutes à ça l'inflation. Donc, toutes les startups voient leurs coûts exploser dans tous les sens. À un moment donné, ça commence à flipper. Et puis, c'est l'effet boule de neige. C'est-à-dire que dès que tu as des rumeurs qui commencent à sortir comme quoi la banque ne va pas forcément bien, qu'est-ce que font les gens? Ils vont tous chercher leur pognon au même moment.
Oui, mais alors, est-ce qu'on peut revenir sur comment ça s'est passé, ce truc-là? Parce que c'était... Enfin, la banque, elle avait pignon sur rue depuis 15 ans. Et là, d'un seul coup, paf,
en fait,
un jeudi soir, tout se barre en couille. Qu'est-ce qui se passe?
Justement, il y a eu une grosse demande de cash flow de start-up qui, pour couvrir leurs frais, etc. Et du coup, la banque, quand les start-upers ont vu qu'ils ne pouvaient pas récupérer tout leur pognon d'un coup comme ils en avaient besoin, et dans la Silicon Valley, hein, tout le monde se connaît, et les gossips, ça parle.
Ça parle.
Les colibés, ça parle très, 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 très vite.
Ils ont tous le même chaman.
Exactement, sachant qu'en plus, le gros patron avait liquidé pour 3,6 millions d'actions de dollars. Enfin, tu vois, genre un ou deux jours avant que ça se pète la gueule et compagnie. Ah, tu vois, ça ajoute au truc, quoi. Donc,
oui, parce qu'alors oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est que au-delà de cette faillite record en un temps record et de tout ce qu'elle représente, on vient d'apprendre que le patron de l'entreprise a commis un joli délit d'initié. Mais le problème, c'est que quand tu lis la citation, tu as l'impression qu'il se rend pas compte qu'il est en train de se
mais c'était lui, en fait. Le mec j'ai Alexandre,
oui, le type
machin,
explique, ouais, il y a plein de gens qui ont fait un bank run. Donc un bank run, c'est vendre, c'est d'être au courant que tu vas plus pouvoir payer, donc de vendre tout ce que tu peux, sauver les meubles en tout cas pour garder ta mise, avant de prévenir les autres que ils ont perdu leur thune. Il a dit, j'ai vu tous mes potes qui faisaient ça, du coup je l'ai fait aussi, quoi.
C'est ça.
Du coup, mais mec, c'est illégal ce que t'es en train de dire. Exactement. Tu vas finir en taule.
et comme dit Pacoun, en fait, c'est le CFO, donc le Chief Financial Officer, donc le mec responsable des finances, en fait, c'est son ancien de Lehman Brothers,
ouais,
qui a fait couler Lehman Brothers en 2008, tu vois. Donc,
voilà.
Le mec, il sait de quoi il parle, quoi, il s'agit de Lehman Brothers.
Il est connu pour ses bonnes décisions.
Exactement, tu vois, le mec est doué. Et du coup, donc ça a fait boule de neige. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, le système bancaire américain n'est pas aussi encadré que le système européen. D'ailleurs, merci Trump qui en 2017 a un peu ouvert les vannes.
Oui, il a dérégularisé encore.
En gros, typiquement, une banque est censée avoir en fond tous les avoirs de ses clients.
Oui, de quoi pouvoir payer l'ensemble des actifs.
Et alors qu'en fait, aux US, pas du tout. Donc, c'est-à-dire que si tous tes clients, d'un coup, t'as pas la porte pour récupérer leur pognon, en fait, t'as pas les liquidités pour le faire.
Mais c'est marrant parce que ça s'appelle Bernard Madoff.
Eh ben, c'est un peu ça.
Oui, mais Bernard Madoff, c'était une pyramide de Ponzi.
Oui, en fait, c'est ce
à partir du moment où t'as pas l'argent pour cash out l'intégralité de tes clients, c'est la même chose.
Oui,
la pyramide de Ponzi,
c'est
pour
ça que les banques européennes, en tout cas notamment françaises, mais européennes de manière générale, ont ce qu'on appelle une obligation de liquidité, c'est-à-dire que pour se déclarer banque et faire un service bancaire, tu dois déclarer le fait que t'as tant de liquidités et que tu garantis que tu as les liquidités nécessaires à payer tes clients au moment où ils vont réclamer leur thune. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il n'y a plus ça.
Ouais, bon, d'ailleurs, philosophe flou qui me dit que les vignerons californiens ne sont pas touchés, c'est une putain de bonne nouvelle, je vous expliquerai après pourquoi, pour le coup, c'est pas une vanne. Et du coup, en fait, c'est comme FTX. FTX, donc le gros exchange de crypto, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris le pognon de leurs clients, ils l'ont foutu dans une autre boîte d'investissement. Et puis le jour où les gens ont voulu récupérer leur pognon, en fait, ils ont découvert qu'il n'y avait plus le pognon qu'ils pouvaient récupérer, parce que c'était passé dans une autre boîte. Et du coup, c'est comme
dommage.
Que FTX s'est crashé et que le mec s'est barré aux Bermudes, mais il s'est fait choper aux Bermudes et tout.
Oui, il s'est fait attraper. C'était qui? Bankman-Fried.
Lui, c'est pareil. Hein. Lui, c'est pareil. SBF, t'as l'impression qu'il se rendait pas compte. T'as l'impression qu'il se rendait pas compte que ce qu'il faisait, c'était illégal.
Attends, le gars, il s'appelait. Attends, le gars, il gérait une marketplace et il s'appelait Bankman-Fried.
Ouais.
Fried, ça s'écrivait Fried.
Ses deux parents, plus, qui sont des universitaires super connus, je crois. Enfin,
incroyable.
Incroyable.
Les gens n'ont pas vu la douille, tu vois. Tu vas dans une banque qui est gérée par un gars qui s'appelle Monsieur la douille et tu vois pas la douille. C'est dommage.
Et du coup, ce qui se passe, c'est que t'imagines bien quand tous les start-upers de la Silicon Valley et les grosses boîtes disent. Ont leur banque qui commence à se péter la gueule. Quand tu es le président des US, tu dis putain, mon secteur le plus performant du monde et de mon pays risque la banqueroute et une catastrophe en chaîne. Et en fait, qu'a fait Biden qui désormais est, je pense, le président le plus socialiste.
Oui, c'est ça qui est marrant.
Le président
ouais.
capitaliste, en fait, il a fait écoutez, les gars, en fait, l'État va garantir tous les fonds, en fait, l'argent des gens. Donc voilà, l'État se porte garant.
Est-ce qu'on a une
pour les clients, pas pour les banques elles-mêmes.
Hein. Ouais, pour les clients, pas pour les banques. Hein. Donc,
alors on a une idée de l'enveloppe que ça implique. C'est on est en quoi, en centaines de milliards, dizaines de milliards.
J'ai pas les chiffres, hein, mais quand tu sais que le mec, c'était la banque de tous les start-upers du coin et qui a ça financé à base de centaines de millions chaque start-upper. Tu peux t'imaginer qu'on parle pas de 3 milliards.
Alors attends, du coup quand vous dites que le gouvernement américain va quand même assurer les clients. On parle de qui? Des startups en question?
Exactement, ouais. C'est ça.
Ah, mais ceux qui avaient un compte et qui leur avaient confié leur thune, ouais. Ils vont pouvoir la récupérer, du coup.
Ouais, parce que du coup, en plus, il y avait des startups qui devaient payer clairement leurs employés, payer la location de leurs endroits où ils bossent, etc., de leurs locaux, et ils ne pouvaient plus. Et tu sais bien qu'aux US, si tu ne payes pas le jour donné, le lendemain, c'est bon, on te vire, quoi.
Ouais.
Donc c'était vraiment très 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 compliqué. C'est pour ça que Biden a dit en fait on va backer, parce que sinon tout le start-up,
il y a énormément de boîtes qui auraient coulé dans la foulée. Ouais.
Exactement, ouais. Donc voilà.
Donc concrètement, c'est quoi la conséquence pour les start-up qu'on connaît qui ont pignon sur web, comme on dit ici. J'ai vu qu'on parlait de Etsy, qui était même pas sûr de pouvoir payer ses salariés, ce bah, genre de boîte.
Aussi, hein, c'est que tous ces gens-là, ils font du cloud. Hein. Donc, comme ils ont du cloud, il faut payer le cloud, il faut payer AWS, Azure et compagnie. Et AWS, si tu le payes pas, bah, ils vont pas te laisser tes serveurs gratos pendant 3 semaines. Hein.
Non, ça c'est clair. Moi, ce qui me fait mal, c'est que de ce que j'ai vu, il y a aussi pas mal d'entreprises de la blockchain qui avaient leur compte là-bas. Donc, c'est quand même assez drôle de voir ces entreprises qui vous disent non, mais faites pas confiance aux banques, faites-nous confiance à nous, machin. Et
ça, c'est
parce qu'une banque s'est cassée la gueule.
Bah, derrière, t'as un exchange de crypto mineur hein, qui s'est pété la gueule. Hein,
ouais, donc, en même temps, ouais. en tout, il y a eu 3 banques hein, qui sont tombées.
SVB, c'était la 16e plus grosse banque des US. Donc, c'est un truc vraiment local, c'est vraiment californien, tu vois. C'est-à-dire que quand si t'es au fin fond du Dakota du Nord, la SVB, t'en as jamais entendu parler. Tu
oui, mais vous SVB, savez que les marchés financiers sont interconnectés, donc il est possible que le mec du Dakota du Nord, voire le bon paysan avec les mains pleines de terre qui travaille dans les Deux-Sèvres, potentiellement peut se faire baiser la gueule par un effet domino. Donc moi, la question, c'est est-ce que nous, pauvres Européens, socialistes, est-ce que nous sommes à l'abri?
Oui, parce qu'il y avait la seule agence SVB en Europe, c'était en Allemagne, et là j'ai appris qu'elle s'était fait racheter justement par je sais plus trop qui. Donc en fait, tous les Européens qui avaient une filiale SVB ont tout de suite racheté les trucs. En mode, c'est bon, comme ça, au moins, il n'y a pas de contagion, tu vois, ça ne va pas...
Ouais.
Ça va
pas partir. Mais surtout, comme on disait tout à l'heure, en Europe, il y a des obligations légales de
baquer...
De fonds, enfin, t'es censé déclarer que tu as bien les fonds pour payer tes créanciers, tes clients, tout ça. Et si tu ne les as pas, c'est la banque centrale locale qui va te contacter pour te dire, écoute, on a un problème, soit tu cesses ton activité, soit tu trouves un moyen de remplir tes caisses, parce que tu ne peux pas continuer avec en étant déficitaire. Si t'arrive un problème, tu vas couler et tu vas faire couler plein de gens avec toi. Et ça, c'est très surveillé en Europe, et du coup je doute que le même scénario se passe de la même manière ici. Ça,
oui, parce que évidemment toutes les chaînes info agitent le spectre de la crise de 2008 liée aux subprimes. Bon, en 2008 c'était lié à des placements totalement hasardeux et complètement risqués, et un octroi de crédit complètement démentiel à des gens qui de toute façon ne pouvaient pas rembourser. Là, ça a l'air moins... C'est un marché, c'est un jeu financier, machin, etc. Mais j'ai l'impression que ça a l'air quand même moins vicieux, non, que... Ou en tout cas moins...
C'est pas nécessairement moins vicieux, c'est un mauvais calcul, hein, comme à l'époque, en fait. C'est un mauvais calcul, juste à une échelle plus petite. Simplement, la banque, elle a fait des prêts à des taux qui étaient avantageux à l'époque où elle les a faits. Les années passant, le taux, il n'était plus du tout avantageux pour eux, et les nouveaux taux étaient plus avantageux pour les nouveaux clients. Mais du coup, quand tes clients à toi arrivaient en disant « on veut récupérer nos thunes », bah, tu devais vendre les actifs que tu avais qui étaient à un taux dégueulasse, et donc tu perdais de la thune. Et c'est vraiment le mauvais calcul qu'ils ont fait. Mais ça, tu viens moins de voir l'avenir, tu peux pas vraiment… C'est ce que font les banques, hein, de faire des placements, et etc. Donc c'est juste des mauvais placements et des mauvais calculs. Mais… qui ont été accentués par le fait que bah, là-bas, tu n'as pas d'obligation de liquidité. Et donc, tu peux dire, ouais, je m'en fous, je vais me mettre en dette de malade, mais ce n'est pas grave parce que je sens bien ce coup-là. Tu peux faire des coups de poker quand tu es banquier aux États-Unis.
Bah, à l'américaine.
Ouais. En fait, j'ai vu qu'ils avaient 21 milliards de dollars d'actifs, et ils en ont récupéré 1,8 milliard, tu vois, en vendant leur truc. Donc, pour tout dire,
il y a un petit manque. Il y a un petit manque. En bas du tableau Excel, il manque des chiffres.
Et donc, pour revenir sur les vignerons californiens.
Et oui, parce que toi, tu connais quelqu'un, du coup.
Bah, mon beau-frère, en fait, qui bosse à la SVB en Californie, justement, et il s'occupe des vignerons californiens. Donc, lui, son taf, en fait, c'était d'accompagner les vignerons dans leur expansion et de contrôler, bah, justement, d'essayer de voir aussi le potentiel de la vigne. C'est-à-dire que quand tu avais un vigneron qui voulait emprunter du pognon pour développer sa vigne, bah, lui, en fait, allait le rencontrer, faisait une sorte d'audit de ses installations, goûter le vin, enfin, c'était un... Il a fait un double cursus de justement finance et viticole. Et donc, du coup, voilà, c'était son taf. Donc, quand je l'ai appelé en mode « Putain, mec, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas avoir un peu de pognon pour finir ?» Il m'a fait bah, « En fait, c'est simple. SVB leur a dit « On a 45 jours de paye et pas plus, quoi. » Donc, en gros, d'ici 46e jour, on n'a plus rien pour te payer. Donc, voilà. Donc, si apparemment Biden a dit que les vignerons californiens étaient bien, comme l'a dit la personne dans le chat, ça veut dire que potentiellement, peut-être que la division pinard de SVB va bien et que potentiellement, mon beau-frère va peut-être s'en sortir.
Bah alors, c'est marrant. Et ça veut dire que la SVB, ils étaient à la fois sur les startups et les petits artisans avec les mains pleines de terre.
Bah, en fait, ce n'est pas des petits artisans pleins de terre qui font du pinard en Californie. Hein. C'est surtout, c'est des mecs qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de pognon. Et comme tu sais, il y a beaucoup d'acteurs hollywoodiens qui ont des viticoles en
oui,
France.
Oui, qui ont des vignes.
Ouais. Parce que ça fait classe, c'est cool, etc. Et en fait, dans la Silicon Valley en Californie, c'est un peu ça, tu vois. C'est-à-dire que le mec, il s'est fait quelques milliards avec sa start-up, bah, en fait, il kiffe avoir son petit viticole dans le coin, tu vois, faire ses petites bouteilles de pinard et voilà quoi, c'est ça fait partie, tu vois, du comment dire, de la success story, de dire bah tiens, j'ai acheté mon petit viticole et voilà quoi. Et puis ils ont des beaucoup de cépages aussi. Et ce que j'ai appris au niveau, j'y connais rien en pinard, mais je sais qu'il y a eu du cépage californien qui a été importé en France a priori pour quand il y avait une grosse, apparemment il y a eu une grosse maladie des vignes, il me semble.
C'est quoi, c'est le phylloxéra, non?
Ouais, c'est ça, le phylloxéra, ouais. Je crois. Et d'après ce que j'ai compris, apparemment, on avait dû réimporter du cépage californien en
oui.
France.
Bah, pour, était, mais oui, mais pour c'était, repeupler, c'était pour des variétés françaises, ce donc c'est
ouais,
pas
c'est
pour
ça. Ouais, ouais. Donc le vin, il a fait
oui.
pouf.
Ouais, une bonne partie du vin produit en France, effectivement, viennent de souches californiennes, mais qui, à la base, sont françaises
française,
et qui avaient été exportées en
Californie. C'est ça, mais c'est rigolo, tu vois, de voir que finalement, les grands amateurs de pinard français, finalement, boivent du cépage californien. Quoi.
Sans le savoir, c'est incroyable, franchement, hein, mais on apprend tout sur Discate, vraiment.
Allez, merci philosophe flou, du coup, je vais regarder ça, l'article Bloomberg sur les vignerons, ça m'intéresse.
Donc toi, ton beau-frère, il va se faire lourdax alors, ou... Parce que là, si Biden, il sauve tout le monde, bon bah, il n'y a plus de problème et on continue, exactement comme après 2008, let's go.
Non, il back up l'argent des clients, il back up pas la banque ni les employés.
Bah oui.
Mais donc la banque ferme vraiment ou se fait racheter?
A priori, la banque, elle va couler, ouais.
Ouais, donc en fait, d'accord. C'est soit il y a un mec qui rachète. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une Elon Musk, je sais plus, qui avait dit, et si on rachetait SVB pour faire une banque digitale et tout.
Mon Dieu.
Ouais, mais Elon Musk, il faut qu'il arrête de racheter des trucs. En fait, il lui faudra un tuteur légal. Tu sais, comme...
Il faut le mettre sous tutelle.
Un tuteur légal qui va dire, écoute, non, Twitter, pour 44 milliards, c'est pas raisonnable. Tu retournes dans ta chambre, s'il te plaît, Elon, et tu arrêtes.
Attends, parce qu'on a Kubiak, on a Kubiak qui nous dit HSBC a déjà racheté.
HSBC, pour moi, ils ont racheté que la filiale allemande, ils n'ont pas racheté au niveau global pour moi.
Mais bon, écoutez, moi, de toute façon, c'est une banque, je ne savais même pas qu'elle existait jusqu'à la semaine dernière. Donc,
de quoi, SVB?
Ah ouais?
Oui, c'est vrai que je ne connaissais
mais
pas.
Mais tu sais pourquoi? Parce que toi, tu es un mec de SoCal, en fait, tu n'es pas un NorCal guy.
Ouais, c'est des banques,
alors,
oui.
Si t'avais dépassé la frontière Los Angeles, comme moi, tu vois,
ouais.
Ben en fait, moi, je passe ma vie à la Silicon Valley, globalement, je descends jamais en dessous, et ben voilà, moi, je vois du SVB partout, tu vois.
Ah oui, parce que moi, je connais Wells Fargo et Chase, tu vois, Chase, Wells Fargo et la filiale de la BNP aux États-Unis qui s'appelle Bank of the West. Et je trouve ça trop stylé.
Bank of the West.
Tu vois, il y a la Wells Fargo, il y a la diligence dessus, mais Bank of the West, ça fait super stylé. Ok. Ah merde, attends. Donc ça, c'est pour le gros point SVB. De toute façon, on va le suivre chaque semaine parce que je pense que le graphique qu'on a vu sur la récession, il risque de...
Ouais, il va faire un petit bump, hein, probablement. Ouais.
Il va forcément être impacté par ce truc-là, même si les entreprises sont potentiellement sauvées par le gouvernement américain. On sait très bien que quand il s'agit de couper des têtes avec un semblant de justification, généralement, ils hésitent pas trop longtemps, hein, les Américains. Les Français non plus, du reste, hein, je veux dire, là-dessus, on est raccord. Tu voulais nous parler, Penta, de Chat GPT, je crois, non? Il y avait un truc comme ça, parce que j'ai
vu... Oui, faire un petit update, en fait, sur Chat GPT, parce qu'on avait fait notre talk il y a pas très longtemps.
Bien sûr.
Et vous parlez un peu des nouvelles, de ce que ça donne, parce que là, du coup, c'est accessible à beaucoup plus de monde.
Moi, j'ai toujours pas accès au truc de Bing, là, le machin.
T'as fait un compte Microsoft et tu t'es inscrit à la liste d'attente ou pas?
Ouais, j'étais sur liste d'attente, mais ils m'ont jamais réécrit.
En fait, le truc, c'est comme moi, j'utilisais Bing depuis des années parce que ça me faisait des points gratos pour avoir le Game Pass gratos.
Il était là, l'utilisateur européen de Bing, il était là, c'était lui.
Et c'était moi. Et du coup, ce qui fait qu'à vu que j'avais beaucoup de points, en fait, j'étais en top liste, tu vois, pour la liste d'attente, donc ça voilà, ça m'a servi. Et du coup là, les nouvelles intéressantes sur ChatGPT sont que déjà Microsoft s'est aperçu que des gens flirtaient avec ChatGPT.
Oh mon Dieu.
C'est-à-dire, ah oui, non mais ça c'est
ah mais
incroyable.
Ça va devenir gênant. Oh là là.
C'est
ça
incroyable, en fait.
Tellement pas.
Et du coup, ce qui s'est passé, c'est donc ils sortent ChatGPT en mode voilà, c'est un prompt, vous tapez quelque chose, ça vous répond. Donc il y a des gens après qui ont essayé de flirter avec, enfin un peu comme c'est Heure, je crois, le film, c'est ça. Hein,
oh là là, quelle angoisse.
Un mec tombe amoureux d'une IA.
Oui.
Donc, et du coup,
le film est très bien.
Microsoft ensuite donc s'est dit, putain, on tient un truc enfin pour être hype. On n'a jamais autant d'articles sur nous que depuis que des mecs veulent flirter avec, avec ChatGPT.
Votre nouvelle copine.
Du coup, ils ont ajouté maintenant, tu as 3 traits de caractère disponibles en fait dans ChatGPT. Tu as un mode un peu artiste, un mode strict et un mode un peu plus concis, quoi. Donc voilà, parce que les gens, ils se sont aperçus qu'en fait, c'était comme ça qu'ils avaient de la hype. Donc ça, c'est assez marrant. Et alors, petit rappel, hein, ce que vous raconte ChatGPT n'est pas parole d'évangile. Et il y a toujours un regard critique, s'il vous plaît, sur ce que ça vous raconte.
Je le redis, ChatGPT, considérez que c'est comme votre daron quand il vous racontait n'importe quoi avant Internet. En fait, c'est ça.
Ouais.
C'est-à-dire que ça. Moi, mon père, c'est ChatGPT. Franchement, il me disait des trucs, mais vraiment avec une assurance. Et un ton, tu te disais, ouais, c'est sûr, il est allé à la bibliothèque, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Wikipédia, il est allé à la bibliothèque, il a potassé, il sait de quoi il parle. Sur tous les sujets, hein. Wikipédia est arrivé, et bon, bah, l'image de mon daron, elle est un petit peu descendue dans le palmarès, quoi. Donc, considérez que ChatGPT, c'est votre père sans Internet, et ça marche
voilà,
très
donc,
bien.
Donc, du coup, donc, pitié, faites ça. Et en fait, ce qui est intéressant, du coup, c'est que Satya Nadella a dit, en gros, nous, tout ce qu'on veut, c'est grappiller sur le dos de Google des pourcentages de moteurs de recherche. Et en fait, 1% de part de marché en moins pour Google, c'est 2 milliards de dollars de revenus pour Microsoft. Hein. Voilà. Ouais. Donc, pour vous dire, donc, ils ont lâché 10 milliards dans OpenAI pour avoir ChatGPT et mettre tout sur Azure. Et s'ils grattent 1% de moteur de recherche à Google, c'est 2 milliards. Donc, s'ils en grattent 5, c'est bon. En fait, leur mise, elle est déjà en fait, remboursée.
Ouais, mais
donc,
concrètement, ça, c'est quoi le but, c'est que tu discutes sur Bing avec...
Non, le but, c'est que tu ailles sur Bing.com et que si tu n'as pas besoin de ChatGPT, tu n'utilises pas ChatGPT, mais que déjà, tu fasses tes requêtes sur Bing. C'est ça, ouais. En fait, le but.
Oui, leur but, c'est que tu utilises Bing, en réalité.
Exactement, c'est ça, Bing. Parce qu'en fait, ChatGPT, c'est là où je veux en venir dans ma petite chronique, c'est que ça leur coûte de l'argent. Là, on a appris qu'ils avaient dépensé là, des centaines de millions de dollars en GPU. Donc, ils ont acheté des A100, les A100 de chez Nvidia. Ils en ont acheté des dizaines de milliers.
C'est là qu'ils sont partis.
Exactement, c'est là qu'ils sont partis. Ils ont acheté donc des dizaines de milliers de A100 de GPU parce que, il faut réentraîner ChatGPT continuellement, parce que si ChatGPT vous sort pas la dernière info qui est sortie il y a 3 heures...
Là, faut bien l'aider, hein, parce que j'ai tapé ton nom et tu es un judoka français né le 19 mai 83.
Bah oui, je sais. Ouais,
en Guadeloupe, du coup, ça va,
ouais,
ça marche.
C'est ça, c'est un Guadeloupéen, ouais. Du coup, au moins, on peut pas nous confondre, hein, ça là-dessus, tu vois, c'est clair. Donc là, au moins, c'est pratique. Non, mais ce que je veux dire, du coup, c'est que, ils ont lâché des centaines de millions de dollars là, pour monter des gros data centers spécialement pour ChatGPT, parce qu'il faut le rentraîner continuellement. Et là, on parle d'une IA avec des milliards et des milliards de paramètres, donc ça ne s'entraîne pas avec un petit GPU, hein, c'est des dizaines de milliers qu'il vous faut. Et ils ont sorti enfin, sur Azure, on peut enfin utiliser les services, donc ChatGPT, DALL-E pour la génération d'images, et on a les tarifs, parce qu'on n'avait pas les tarifs, en fait, à combien ça coûterait, tout ça. Ce qui veut dire que si vous mettez en corrélation les tarifs Azure avec ce que vous, quand vous faites une requête Bing, eh ben, vous pouvez avoir le chiffre de combien ça coûte un utilisateur ChatGPT quotidien. Alors après, chaque semaine, il change un peu le nombre de requêtes qu'on peut faire. À un moment donné, c'était 10, après, c'est passé à 15. Enfin bon, ça, ils sont en train de bouger le curseur comme ils peuvent. Et les tarifs, en fait, donc pour DaVinci, qui est le modèle le plus évolué, donc on est à 0,094 € pour 1000 tokens. Sachant que 1000 tokens, en fait, c'est 1000 mots, pour faire simple. Et d'accord. Quand vous faites des requêtes ChatGPT, vous êtes limité à 2000 mots. 2000 caractères, pardon. C'est ça,
mais il connaît rien, ce truc-là. Pardon, je suis en train de lui demander s'il connaît Disquette.
Il faut que ce soit spécifique.
Bah, j'ai dit, connais-tu Disquette, la meilleure émission tech du monde. Je peux pas être plus spécifique que ça.
Déjà, c'est une question vachement orientée.
Bah ouais. Mais ça y est, maintenant, il essayait, tu vois, de...
Ouais.
Là, maintenant, je trouve qu'il dodge vachement vite. Hein. Il dit, en tant que modèle de langage, pardon.
On sait tous, à la fin, s'ils veulent vraiment gagner de l'argent avec, on sait tous comment ils vont faire. Vous le savez, comment ils vont faire. Ils vont faire payer 5 € par mois et puis ils vont rajouter SM.
Même pas. Le but du jeu, si tu veux, c'est de faire payer les gens comme moi qui en ont besoin pour leur boulot et au lieu de devoir réinventer la roue, bah, en fait, vont utiliser leur service. Et moi, j'ai plein d'idées pour la mairie de Drancy avec ChatGPT.
Alors, je me permets, Penta, ouais, de t'interrompre. Si tu faisais tourner ton truc d'IA qui reconnaît les poubelles lâchées à l'arrache là, dans la ville de Drancy, tu vas dans le 12e, là, je peux te dire que ton modèle de data, là, tu vas il va apprendre de manière incroyable.
Ah ouais, c'est le moment où jamais, là, de faire
Ah bah là, il faut y aller, hein, parce que je peux te dire, là, en ce moment, niveau poubelle lâchée comme ça, de manière sauvage...
Ah bah ouais, tu passes un petit quart d'heure dans Paris, t'as de quoi faire. Hein.
Ah bah là, ton dataset, il est complet. Moi, là,
D'ailleurs, bisous à la ville de Paris, à qui j'ai une réunion il n'y a pas très longtemps pour les aider sur des sujets d'IA. Voilà, bisous à vous si vous regardez l'émission.
Bien sûr, et regarde.
Du coup, voilà, donc on est à 0,09 donc pour 1000 tokens. Donc tu te dis qu'une requête, c'est 2000 caractères. Donc tu vois, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas gratuit. Chaque fois qu'une personne fait une requête, ça coûte du pognon à Microsoft. Alors, eux ne se facturent pas en interne au prix public, bien évidemment, mais malgré
évidemment.
Tout, tu vois. C'est quand même des centaines de millions d'euros lâchés pour les GPU, plus chaque personne. Donc, le modèle économique, c'est vraiment, un, de gratter des pourcentages de moteurs de recherche à Google. Deux, vendre la techno à des gens comme moi sur Azure, déjà pour me faire venir sur Azure, parce que moi, j'étais client OVH et AWS et je ne faisais pas du tout d'Azure. Donc déjà, ils se disent, bah, tiens, peut-être qu'en étant sur Azure, en utilisant OpenAI, il va peut-être voir d'autres services qui vont l'intéresser, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tu vois, donner de l'appétence pour Azure plutôt que quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Et Dali. Ah oui, Dali, ça, c'est intéressant. Donc, le truc de génération d'images, c'est 1,89€ pour 100 images.
Ça va.
Ouais, mais tu vois, quand t'es une boîte, justement qui fait la génération d'images avec des prompts comme, je sais plus comment il s'appelle, Midjourney, genre de choses, ben voilà, ça te donne, ça donne une idée en fait de combien ça coûte, quoi.
Attends, justement, là, on a encore dépensé 5 balles avec deux requêtes dans le chat. Il y a N'oubliez pas votre serviette qui dit: j'ai eu ça comme réponse. Bonjour Sebling, je peux vous aider en français. Disquette est une émission sur Twitch qui parle de l'actualité du monde de la technologie, notamment des processeurs, des cartes graphiques et des jeux vidéo. Jusque là, sauf les jeux vidéo, on n'en parle pas trop, mais quand même. Elle est animée par 4 passionnés. Ouais, pourquoi pas. On est 5, mais c'est pas grave. C'est Wiz, Marc, Pierre et Régis. Alors, qui est qui? Vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir. Qui est Régis?
Il faut qu'on se renomme. Il faut qu'on se renomme. C'est ChatGPT qui l'a dit.
Ah ouais,
moi,
Régis.
Prends, attends, moi je prends. C'est Wiz.
Ah, je savais, okay. Ça c'est un truc de hacker, ok. C'est Wiz, c'est quoi, pour la prochaine fois, je le note. C'est Wiz, et toi tu seras Régis, Penta, j'ai décidé.
Oh, forcément, je suis le blanc de la troupe.
Let's go, et moi je serai Pierre.
C'est racisme, ça, monsieur Daz.
Non, pas du tout, c'est par rapport à Régis. Régis est un con, sketch des nuls, pour les gens qui sont nés avant 1980. Quoique oui, j'aurais pu être Régis moi aussi, parce que j'aime bien ce prénom. Je suis fasciné par les gens qui s'appellent Régis.
Attention, c'est Régis 1.
Oui, c'est Régis 1. C'est, mais ça doit se dire Régis 1.
Ça ressemble à l'acte de naissance, mais...
Régis 1,
ah, putain,
mais,
oui.
Mais dites-vous que si ça se trouve, pour de vrai, cette émission existe avec ces personnes. C'est ça qui est
dans
ouf.
Dans un univers parallèle. Imagine, on se dit tous, ChatGPT, c'est des réponses pétées, c'est pas...
En fait,
c'est
ouais,
pas
c'est juste qu'il n'est pas plugué sur la bonne terre.
Et c'est ça, c'est des réponses, excellent, mais qui marchent dans un univers parallèle.
C'est la porte du multivers, en fait.
Mais oui, ça, c'est un bête de scénario de trucs d'anticipation. Franchement, incroyable. Je pense qu'on va avoir les IA conversationnelles dans les films.
Une IA, en fait, qui donne des réponses d'une Terre 2.
Bah oui, d'une autre dimension, ça serait mortel.
Et du coup, tu essaies de communiquer avec ce multivers via l'IA. Putain, faut faire un film.
Ah ouais, il y a un truc à faire. Hein.
Et le mec qui a géré l'IA, en fait, dans l'autre multivers, c'est ton père? Parce qu'il y a un truc, ouais, parce qu'il y a un truc comme ça, il y a un film. Hein,
là, tu rentres dans le scénario d'Interstellar, par contre.
Mais non, mais c'est quoi? Il y a un film avec un gars qui communique avec son daron dans le passé par radio.
Ah putain, je l'ai vu en plus.
Ça me dit quelque chose.
Oui, avec je crois que c'est Dennis Quaid.
Ils ont toujours la réponse.
Et le fils permet à son père. Ouais, le fils permet.
Fréquence interdite.
Fréquence interdite. Putain, voilà.
Bien joué.
Mais oui. Exactement, le pompier, putain, j'ai envie de le voir. Allez, hop. Eh ben, ça tombe bien, parce que c'est la fin de cette émission.
Allez, hop,
ça dégage.
Netflix.
Non, ben, ok. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Hein, ça m'a fait vraiment très plaisir de vous retrouver après cette petite pause. On espère revenir, donc... non, on n'espère pas, on revient.
Deux secondes, tant qu'on parle bien.
Ouais.
Donc, je vais essayer de mettre en place un système de sous-titres temps réel.
Vas-y, vends ta sauce.
Pour disquette, parce que j'ai un pote qui s'appelle Jean-Louis, qui a monté une startup Gladia, qui utilise le modèle OpenAI de transcription texte
text
voix
to speech.
Vers texte,
speech to text
to speech et speech to speech en traduction multilingue temps réel aussi. Donc, mon idée, moi, tu vois, typiquement, c'est par exemple d'avoir un système où, quand on parle par les personnes malentendantes, typiquement, on pourrait voir les prompts générés par l'IA pendant qu'on parle, pour les vidéos YouTube aussi, et un jour, pourquoi pas, essayer de faire une mission disquette traduite en Punjabi ou en ourdou. Je trouve que ça sera ultra cool, tu vois. Et on pourra s'exporter à l'Inde et 1,3 milliard quand même de personnes.
Non, mais tu sais quoi, ça sera la revanche. Ça sera la revanche. Non, mais ça sera la revanche pour tous les tutos YouTube avec des Indiens là, qui nous expliquent en parlant anglais avec un accent délicieux. Comment,
J'en ai maté plein rien que ce week-end. Ben je fais des trucs pour mon stream. Et à chaque fois, c'est vrai en plus.
Hello everyone. Welcome to this video. I'm going to help you.
I'm going to show you how to change the color.
Même en chinois, tu vois. En cantonais, tu vois, tu as 1 milliard de personnes. Voilà. Il faut élargir l'audience de disquettes. Et ben voilà, grâce à ça, on pourra, tu vois.
J'avoue, les mecs nous carient depuis des années et ils nous curient également. Ah allez, salut. C'est tout pour moi. Merci, Panam.
Oh mon Dieu.
Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, raid des gens. Alors, est-ce que vous avez une chaîne? Est-ce que vous avez une chaîne de prédilection?
Je vais te dire si j'ai des...
Ah oui, mandarin, merci, pas cantonais, mandarin.
Ah, la langue officielle, c'est le mandarin.
Ah oui, c'est le mandarin.
Pardon.
Eh oui. La revanche des Sikhs, bien sûr, j'y avais pensé également, vous inquiétez pas. Alors, attends, y a qui, là? Ah, ben, Samora, allez, vas-y, tiens. On va pousser ça chez Samora, ça va lui faire plaisir. Chers amis, donc nous on se retrouve dans 2 semaines. Oni, quand est-ce qu'on te retrouve?
Mog, il me dit, je suis peut-être en retard.
Ouais, complètement, Mog. Complètement.
Ça sera dispo en podcast.
On te retrouve quand, Oni?
Demain après-midi, je vais streamer du Wolong.
Ok. Bien ou pas ce truc-là? J'ai des doutes.
Il est tout pété, mais en attendant, le contenu additionnel d'Elden Ring, ça fait un palliatif.
Ok, super. Ok, ouais. Donc c'est un palliatif à Elden Ring, je note, sachant que moi Elden Ring, je l'ai lâché parce que justement la vie est trop courte pour se faire chier avec des jeux durs. je vais pas jouer à Elden Ring, à Wolong. Oh là là, lapsus. Penta, toi tu t'en fous, tu stream pas de toute façon, donc on te retrouve à la mairie de Drancy tous les jours de 12h à 12h08, hein, classique horaire pour les fonctionnaires. N'hésitez pas à aller lui taxer son écran 45 pouces incurvé. Qui ne curve pas.
Qui se décurve.
Qui se décurve. Et si vous habitez Drancy ou une ville limitrophe, n'hésitez pas également à saluer la police municipale, parce qu'il n'est pas impossible que plus tard, vous les retrouviez à Bercy, les gars. Ok ? À l'Accor Arena, sur une finale de Valorant ou de LOL ou de je sais pas quoi, parce que ils sont équipés comme des équipes e-sport. Donc j'espère que nos impôts, ils servent quand même à quelque chose. Hein. Ils ont intérêt à doser un petit peu.
Il faudrait au moins ça, quoi, ouais.
Au moins ça. Voilà, c'était un plaisir évidemment de vous recevoir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Nous, on se retrouve pour un stream demain sur cette chaîne. Je sais pas quand. Voilà. En attendant, portez-vous bien et gros bisous à tous. Ciao.
Ciao.
Salut les fous.